Bon midi tout le monde. Bienvenue sur les ondes de Boulevard 102.1. Il est midi une minute, c'est l'émission On en jase, ton rendez-vous du midi d'actualité. Nous, on parle des gros dossiers On en jase. Puis aujourd'hui, on va en parler de deux énormes. Le premier, comment ça le Canadien n'est pas capable de lancer au but, vierge? Hey, faut que la foule crie shoot the puck!
Puis quand t'es rendu à ce point-là, c'est que tout marche pas. La foule crie shoot the puck, ça énerve les joueurs, ça les déconcentre. Puis hier, c'était pas facile du côté des Canadiens. Une autre partie difficile, mais c'est pas grave. On a eu un beau parcours. Hein. Il nous reste encore peut-être un petit espoir, mais...
Et voilà.
Et même les gars sur la patinoire ont l'air de plus y croire. Ouais. Là,
fait que on va vraiment jaser de ça tout à l'heure avec Alex Laramain. Qu'est-ce que c'est ça? C'est bien juste un lancer au but qu'on demande. Comment ça, moi, quand jamais mes jets envoyaient rondelle au but, ils le font. Puis les Nick Suzuki de ce monde ne le font pas. Anto, toi, t'es découragé de ton Canadien?
Non, moi, ça va très bien. Mais j'étais plus découragé de la foule qui eut. Moi, ça m'a choqué hautement. Puis je sais que c'est déjà arrivé. Je me rappelle en 2022, il y avait eu ça aussi. Puis,
non, en effet.
Hey, si vous aimez votre équipe, là.
Ben oui, c'est en arrière
c'est
de
la vie à la mort, beau temps, mauvais temps, pour le meilleur et pour le pire, dans la maladie comme dans la santé, là, les amis, franchement. Puis il me semble que c'est quand ça va mal puis que tu manques de gaz que tu as besoin d'encouragement. Mm-hmm. En tout cas.
Puis ils nous ont tellement fait triper durant les séries. Moi, j'ai adoré à Buffalo quand l'équipe s'est faite éliminer, puis la foule criait, encourageait leur équipe parce qu'ils ont eu un beau parcours. C'est la même chose que j'aurais aimé voir à Montréal hier, une foule qui restait avec l'équipe et qui continuait à les encourager malgré le fait que c'est plus difficile depuis trois matchs.
Hey, ça me fait penser, on parle de manque de respect. Ça tombe bien, on en parle dans le caucus tantôt de ma tante. C'est un petit manque de respect. On va parler de
ça. Ma tante Christine. Franchement.
On va en jaser. Fait qu'un deuxième gros sujet. Mais le gros sujet d'actualité qu'il faut parler d'entrée de jeu, c'est... Comment ça, on n'est pas capable de construire un pont au Québec? T'as là, mais là, c'est parce que, tu sais, c'est des pylônes, un tablier, puis ben on là, traverse un fleuve.
C'est peut-être un petit peu plus compliqué que
oui,
ça.
Oui, mais partout dans le monde,
mais on devrait
fond,
être capable,
des ponts.
Oui, c'est pas juste un pylône des tabliers, là, mais quand même, comment ça se fait qu'on n'est pas capable de gérer autres, des projets d'infrastructure?
C'est ça, nous, on n'est pas capable de construire un pont. Et là, Mathias, il faut absolument que tu nous racontes le fait que ça se pourrait qu'on soit obligé de ressortir les canaux pour les résidents de l'île d'Orléans. Parce que là, on n'est pas capable de construire le nouveau, puis le vieux, il sera plus en état.
Ah, ça, c'est ridicule. Okay? Ce qu'on a appris du côté du pont de l'île d'Orléans, on sait qu'il y a un nouveau pont qui a été construit d'urgence parce qu'on sait que le vieux pont était fini.
Ouais.
Là, ce qu'on a appris, c'est qu'on nous a communiqué que le nouveau pont de l'île d'Orléans ne sera pas mis en service en 2028 comme prévu. Ce sera retardé. On a pris du retard dans les travaux. Présentement, le projet qui est évalué à 2,7 milliards, ça pourrait être plus élevé parce que ça va être plus long. On n'a pas encore de nouveau échéancier. On a dit qu'on allait travailler sur ça. Mais là, il n'y a rien de rassurant là. On dit que le projet va prendre plus longtemps que prévu. Mais je vous ramène au départ. Pourquoi on construisait un nouveau pont? C'est que l'ancien, il est fini. Puis là, ce que le bureau parlementaire de Québécois nous rappelle ce matin, en fait, après avoir mis la main sur les documents, c'est que le vieux pont pourrait devoir fermer, et ce, dès la fin de 2027. Je vous reconstruis le scénario, là. Le nouveau pont ne sera pas prêt en 2028. Ça va être après 2028. Le vieux pont va peut-être devoir fermer d'ici la fin de 2027.
Catastrophe.
Faites le calcul rapide dans votre tête. Ça veut dire que pendant au moins un an, du côté d'Orléans, on n'aurait pas de pont.
Est-ce que ça va faire comme avec le pont Champlain? Avec le pont Champlain, à un moment donné, là, c'était, je ne sais pas si vous vous souvenez de ça, la super poutre. Il a fallu dépenser des centaines de millions, là, j'ai pas le chiffre en main, là, pour mettre une poutre sous le pont Champlain, parce que c'était impossible que le nouveau pont soit construit à temps avant que l'autre tombe à terre.
Tu as raison, je me rappelle très, 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 très bien de ça. D'après moi, oui, on n'aura pas le choix.
Ça va coûter plus cher. C'est sûr que ça va finir par coûter plus cher. Je voyais dans l'article, on nous disait l'échéancier et le budget seront respectés.
Ouais.
ben non, ça n'arrivera pas. C'est impossible. Puis, je veux juste, là, on va patiner un peu, mais j'avais entendu là, à travers les branches qu'il y avait eu beaucoup de niaisage du côté du ministère de l'Environnement. Quand il était le temps de faire le projet, quand on était dans les autorisations environnementales, là, il y avait du zèle sur certaines choses. Puis, tu sais, à un moment donné, je veux bien, c'est super important, là, je suis écologiste à l'os, OK? Puis c'est important là, de protéger les espèces dans le Saint-Laurent.
Oui, oui.
Mais on va en faire un pont. Il va en avoir un. Ça n'arrivera pas qu'il n'y ait plus de pont. Ça
non,
se peut pas.
Ça
fait que
pas.
Là, concentrez vos énergies sur autre chose. Là. On peut pas empêcher qu'il y ait un pont à l'île d'Orléans.
Exactement.
Ça arrivera pas. Mauvais combat.
Donc là, gens de l'île d'Orléans, s'il vous plaît, procurez-vous un canot. Si vous êtes en moyen,
il y a les flying whales aussi.
Ah, ouais!
J'ai pensé
ça va bien, ça.
Ben oui, finalement, parce que le gouvernement a refusé d'investir de nouveau dans les flying whales. Ben, hein, un dirigeable, là.
Ouais. Vos flotteurs, parce que vous pourriez traverser le fleuve à la nage.
Ouais. Ça l'hiver, c'est frais.
Ben, l'hiver, ce qui est le fun, c'est qu'on peut revenir comme dans les années 1900, on va faire le pont de glace.
Hey, un pont de glace!
Comme dans les années 1900, mais là...
Les bateaux passent de quel côté?
Ça pour...
Ouais. OK,
ouais,
sinon...
On va arrêter ça, les bateaux.
Une
là.
Catapulte. Moi, j'avais pensé à ça.
Une catapulte. À un moment donné, il y avait le téléphérique aussi qui avait été pensé.
Ça doit être aussi long d'avoir des autorisations environnementales,
c'est
à mon avis.
Ça.
Parce que les oiseaux...
Je pense que la catapulte, c'est le meilleur moyen. 418-971-1021. On a besoin de votre créativité. Quel va être le meilleur moyen pour les habitants de l'île d'Orléans pour traverser sur la rive nord quand il n'y aura plus de pont? Parce que c'est pas s'il n'y a plus de pont, c'est quand il n'y aura plus de pont. C'est ça qui va arriver.
Non, je vous le rappelle, le vieux pont, probablement fermé d'ici fin 2027. Le nouveau, pas avant 2028, qui va être ouvert. Fait qu'on va sortir des catapultes.
En plein bon choix. La catapulte. Catapulte-moi à Beauport.
Ça n'a pas d'allure, je capote ce dossier-là.
Ça fait un beau slogan pour un projet incroyable.
Oui.
Catapulte-moi à Beauport.
Exactement.
La ville de Québec se démarque avec une innovation exceptionnelle.
Ouais.
Les gens d'Orléans, on vous fournit des catapultes.
On parle d'hélicoptères, à d'autres baleines. Carl nous dit à d'autres baleines, c'est vrai.
Ça fait longtemps qu'on n'a pas vu de baleines autour de l'île.
Ça respecterait des consignes environnementales à d'autres baleines.
Je suis pas sûre que s'asseoir sur des baleines, c'est excellent pour les baleines, mais on sait pas. À évaluer.
À Marineland, faisait.
À méditer, ouais,
faisait
oui.
À Marineland, ils ont super bien pris soin de leurs baleines.
Oui, oui, ça a bien fini pour les baleines.
C'est un exemple à suivre. Ah là, les auditeurs commencent, là. Deux tyroliennes, c'est vrai.
Oui. Ça, c'est bon, les
Une
tyroliennes.
Une digue.
Ah, fait qu'il a fini le courant dans le fleuve. Là.
Exactement. On n'a pas le choix. On y va. Ben là, tu sais, il faut prendre les grands moyens pour les gens de l'île d'Orléans. Ils n'ont quand même plus de pont.
Des petites navettes fluviales aussi.
Ouais.
Ah,
oui.
Avec des petits pneumatiques, là. Je sais pas.
Ah, c'est ça, un rapidotron. Bon, let's go. Hey, mais tout ça pour dire que, vous le savez, moi, je chiale pas dans la vie, je trouve des solutions. Okay?
Toujours.
Et là, le pont de Lille, on est en train de trouver plein de pistes de solutions. J'aime ça. Mais hier, j'ai entendu Bruno Marchand dans le retour. Et grâce à la créativité de nos auditeurs au 418-971-1021, il a choisi le nom du tramway. OK? Écoutez bien ça, parce qu'après ça, on va faire un jeu encore ensemble.
Saluer l'opposition, restreint citoyen. Non plus.
C'est bon, ça.
Le Napkin Express.
Ça aussi, c'est bon.
Le Budget Buster.
Ah non, on ne le sait pas encore. Tu peux pas, là, tu fais des promesses,
présume,
tu sais pas. Là.
On présume.
Mais non, tu le sais pas.
Pour refléter le Sea Train à Calgary, il y a quelqu'un qui proposait le train de cul. Avec un cul.
Oui, le traduit en français.
Oui, oui, oui. Ouais. Et dans la même catégorie, j'ai l'arrière-train ici.
Moi, c'est mon préféré.
Y a-t-il quelque chose?
Il est bon.
Y a-t-il quelque chose là-dedans qui vous interpelle?
Moi, si j'étais vous autres, j'avais une paire de billets à donner, là,
ouais.
Ça donnerait celui sur l'arrière-train.
Alors, Bruno Marchand choisit l'arrière-train. En passant, vous êtes malade. On parle d'isoler les gens à l'île d'Orléans. Au moins, ils ont des patates.
Ah, c'est vrai!
On dit aussi, pourquoi pas trouver un vieux juif pour séparer les eaux.
Ah!
Comme Moïse a fait.
Ouais,
moi, je pense
ouais.
que ça pourrait miracle. Fonctionner. Après ça, qu'est-ce qu'on dit? Ouais, c'est ça, terrible pour le touriste. Il n'y a pas de doute là-dessus. Mais là, c'est le fun parce que Bruno, notre maire, il est content. On a un nom pour le tramway, c'est l'arrière-train. Donc, on va pouvoir y aller de l'avant. Puis, les gens vont l'accepter. Acceptabilité sociale. Maintenant, faut absolument régler le cas du troisième lien. On en a parlé
oui.
hier.
Oui, oui.
Troisième lien à l'est, route de l'Allemand, ça s'en va sur l'autoroute du Frein. Et là, quand on parle du troisième lien avec Bruno Marchand, ben là, il y a plein de conditions. Mm. Ouais, mais là, faudra pas le promenade de Samuel de Champlain, faudra pas que ça touche ça. Ouais, mais là, la circulation, là, ça arrive nord. Ouais, mais là. Fait que, tu sais, il y a toujours des conditions. Mais moi, je me suis dit, j'ai eu une éclair de génie. Je me suis dit, si on trouvait un nom au troisième lien.
Mais oui, le marketing, c'est important.
Je suis convaincu que Bruno Marchand devient pro-troisième lien.
Puis si le nom du tramway suffit à convaincre les citoyens d'embarquer dans le train, ben le nom du troisième lien va suffire à convaincre Bruno Marchand.
Bruno Marchand va être convaincu, les élus à Montréal vont être convaincus, la population au complet va être convaincue. QS, tout le monde va dire, ça nous prend un troisième lien. Donc là, 418-971-1021, guys. On a l'avenir du troisième lien entre nos mains. On trouve dans les 5 prochaines minutes le meilleur nom pour le troisième lien. Et savez-vous quoi? Paf! Ça va se faire. On n'a même plus besoin de passer par un BAP ou des affaires de même. Non. Un nom, un pont.
Un nom, un pont.
Un nom, un pont. Hey!
Ben, ça peut être un tunnel aussi. Attention, Jeff.
Mon choix, mon char, c'était ça? Mon choix. Un nom, un pont. C'est la nouvelle campagne à Boulevard 102.1.
On me dit que trouver un nom au troisième lien va suffire à convaincre la CAQ de vraiment respecter sa promesse.
Exactement.
Ouh, OK.
C'est simple.
C'est fort.
Alors là, on a déjà le pont Peter Stachny qui est rentré. C'est sûr que quand tu vas chercher la nostalgie des Nordiques, ça, c'est malade.
Ouais,
j'adore
ouais, c'est
ça.
C'est bon, ça.
Moi, j'avais un super bon nom. C'était Juste un pont.
Juste un pont.
Juste un pont. Parce que c'est simple à faire, un pont.
Juste le blanc.
Et t'as tout compris. Parce que le troisième lien, c'est un vrai dîner de con.
C'est bon.
C'est bon.
OK.
Hein?
Moi, j'avais pensé à V17. Tu sais, comme quand tu fais des documents puis que tu te rends à la 17e version.
Oui!
Fait que...
Version ça, c'est 17. Bon. Ça pourrait être juste le coupon. Ou le pont de cul, tant qu'à être dans 10 ans dynamique.
Okay. Andrew parle de l'éternel pour l'éternel recommencement.
Ben, moi, j'avais comme idée quelque chose de très proche de ce qu'Andrew dit. C'était le... Est-ce que vous avez déjà vu le film L'Histoire sans fin?
Oui!
Le personnage principal, Atreyu. Donc, j'avais le tunnel Atreyu à vous suggérer.
J'adore ça! Vois-tu, moi, dans la même gamme, j'avais l'avance-recul.
Bah oui.
Ah, ben,
on
c'est
avance,
bon, ça,
on recule, on avance, on recule. Donc, j'avais ça. Hé, hey, là, vous êtes en feu, encore une fois, ça rentre à côté.
Le pont sans fin qui est géré par un auditeur.
Oui.
Ah, le pont marchand de rêve pour que Bruno le veuille.
Marchand de rêve?
Marchand de rêve.
C'est beau, c'est poétique.
J'aime ça.
Ça sonne exotique un peu.
Oui.
Oui, en plus.
Ouais. OK, est-ce que vous aimeriez le tunnel? Moi, je suis sur le tunnel encore. Là.
Ouais.
TBGJC.
Hey, il doit y avoir du Geneviève Guilbeault là-dedans,
ouais,
j'imagine.
Donc, Tremblay, Bonardel, Guilbeault, Julien Charrette.
Oh!
Puis je me donne la possibilité d'ajouter des lettres là, si jamais la saga se poursuit.
J'aime ça.
Si jamais ça s'étend sur 15 ans, on va finir avec une bonne série.
Oui, ouais, mais ça serait le fun que ça fasse un mot. Tu sais, quand un acronyme donne un mot, là, on
Carl,
joue avec ça.
Carl nous fait une super bonne suggestion parce qu'il embarque là-dedans aussi le PQ qui risque de prendre le pouvoir, le pont de la souveraineté.
Le pont du pays.
Imagine, le pont du pays. Imagine.
Le pont de la nation.
Encore mieux. Hey, là, PSPP, là, il se retrouve droit là sur le bord du fleuve, le poing dans les airs.
Ils sont contre.
Ouais, mais c'est pour ça qu'on va le convaincre lui aussi.
Ouais, c'est vrai.
Ils disent c'est pas vrai que notre nation sera pas capable de construire un pont. Le pont de la nation.
Le pont du pays. On embarque QSP de PQ.
Pont du pays. C'est à votre tour. Ouais, j'aime ça.
Ah, gars, vois-tu, il y a une autre soeur, une auditrice qui a exactement le même nom que j'avais pensé aussi. Le pont de la discorde.
Ah, ben oui. Après le pont de la concorde.
C'est ça, le pont.
C'est très bon.
Ah. Vous êtes bon, les. Vous êtes vraiment. Le pont maritime, 4 heures plus tard, 4 décennies plus tard, ouais. J'aime ça. Ah, vous êtes bon.
Moi, j'avais aussi le gouffre.
Oui.
Mais ça, c'est juste si c'est un tunnel, mais.
Non,
le gouffre financier.
C'est très, très, très bon. Moi, j'avais l'interminable, parce que ça a été un interminable débat. Puis en même temps, le pont.
Elle va tellement être long en plus. Jeff.
Ça donne pas le goût d'embarquer dedans en passant.
Non.
C'est comme, y a-tu un bout de ce tunnel-là ou pas?
Les touristes arrivent. C'est quoi une entre. Viens-t'en, on va embarquer sur l'interminable.
Oui, non, merci.
Le pont A38, parce que c'est comme dans les 12 travaux d'Astérix.
Oui, c'est bon.
Ça revient un peu avec ce que t'avais. Ah, vous êtes vraiment bons, les auditeurs. Réellement, le troisième rien.
Oh, wow! Poétique aussi. Poétique.
Oui. Ah, le pont Fréchette, quand c'est vrai. Mais c'est parce que c'est le PQ qui rentre, ils ne voudront pas le faire.
Mais
c'est qui... Ouais, puis il manque une couple d'acronymes, une couple de lettres, là. Comme dans propos.
Il y a du monde là-dedans.
Ouais, c'est ça. Beaucoup de personnes ont participé à la création de ce troisième lien-là.
J'adore ça. J'ai mon pont On avait ben j'ai oui. ma pelle, j'ai mon siège, j'ai ma place, j'ai mon pont.
Hey, puis là, on pourrait donner des petites pelles bleues.
Ouais.
Ah! C'est très bon.
Ah, c'est malade. Il y a rien qu'un pont aussi, en effet.
Mais le troisième rien, je m'excuse. C'est très bon. Là.
Le troisième
moi,
rien,
c'est bon. À mon vote.
OK, il y en a un peu plus corsé, là, je l'adore. Le point G, on le cherche tout le temps, mais on le trouve pas.
OK.
Il est bon.
Okay. Peut-être quelqu'un qui a des difficultés à satisfaire son conjoint aussi, mais bon. Le pont fantôme, le pont de la Renaissance, hein, c'est non, mais bon.
On commence à avoir une thématique dans des choses qui n'existent pas. Le pont fantôme, le troisième rien, le pont G, tu sais, c'est tout dans la même thématique.
Exact. Ouais, je pense que le troisième rien, ça serait celui qui plairait le plus à Bruno.
Probablement.
Parce que c'est lui là, qu'il faut convaincre. Non, non, mais c'est le maire de Québec. Parce que c'est le maire de Québec.
Ça va le convaincre de son idée de départ.
Le troisième rien, ouais, le pont à rien aussi, oui.
Ah, c'est bon.
Fait, ouais, ça,
j'aime ça, les jeux de mots de même.
Ça, on est là-dedans. On est-tu d'accord?
Ah, c'est bon.
On est d'accord, hein?
On va le proposer au maire marchand, voir si ça le convainc.
D'après moi, ça le convainc d'y aller.
Mais je pense que lui, le troisième rien, il va dire, va vraiment falloir que ce soit le nom pour rien. Comme ouais. Pas le nom du pont qui va se construire pour le convaincre.
Exact.
Le pont, pas dans mon mandat. Vous êtes malades, les auditeurs, au 4
La promesse.
9, 7, 1, oui, la promesse.
Tu sais. Ça fait combien d'élections qu'on se fait promettre ça?
Ouais! La promesse, j'adore!
2014, 2018, 2022,
ouais. 2026! Puis là, en plus, la proposition de construire le pont sur l'île d'Orléans redevient d'actualité parce qu'on sait que le pont de l'île d'Orléans ne va pas exister non plus.
Ben là, ça risque de mettre 25 cents dans Éric Duhaime, cette affaire-là. Ouais. En tout cas.
Là, vraiment, le troisième rien, là, il est en train de l'emporter chez les auditeurs. Là. Il y en a plusieurs qui votent pour ça. Et il y a énormément de gens aussi qui votent maintenant pour des positions sexuelles en raison du
point
de jeu.
Oh!
On okay. a le pont missionnaire.
Ça dérape. Moi, je pense que c'est le temps qu'on change de sujet.
Merci, guys, aux 4 8-9-7-1-101, vous êtes malade. Mathias, à part le pont de l'île d'Orléans qu'on va devoir utiliser des canaux, qu'est-ce qu'on retient dans l'actualité avant qu'on parle avec Antonine dans le caucus?
Oui, un député du Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay, qui va quitter le caucus du Bloc pour faire le saut en politique provinciale vers le Parti québécois. C'est Radio-Canada qui nous apprenait la nouvelle ce matin. On aurait informé le président de la Chambre de la décision de... Donc, on ferait une sorte de transition. Là, on siégerait comme député indépendant pour par la suite, faire le switch à la prochaine campagne électorale provinciale. Normalement, l'annonce de la candidature de l'homme en question devrait se faire demain matin à Saint-Hyacinthe. Et on nous dit que les deux chefs des deux formations politiques, Yves-François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon, seraient présents. L'objectif, ce serait de mettre en quelque sorte une mise en scène pour laisser aucun doute sur l'unité des troupes souverainistes. J'en profite pour parler du fait qu'Isabelle Demers quitte son poste de chef de Lévis Force 10 du côté de Lévis. Elle qui avait fait la course à la mairie de Lévis contre notamment Steven Blainé et Serge Bonin. Elle avait fini troisième derrière ses deux concurrents. Isabelle Demers qui avait fait le saut pour la première fois en tant que conseillère municipale en 2001 en politique municipale. Je termine avec le prix de l'essence qui a baissé aujourd'hui là, un peu partout au Québec. Ça, c'était notamment en raison des spéculations comme quoi...
Sa lumière! Wouhou!
Ouais, ben... tu tombes sur un bon timing parce qu'il y avait beaucoup de spéculations comme quoi Détroit d'Ormuz puis la situation en Iran, ça allait se régler. Ce qui a fait baisser le prix du baril de pétrole, sauf que là, l'Iran et les États-Unis, la nuit dernière, ont mené les plus importantes frappes depuis le début de la trêve, donc depuis début mai. Donc là, finalement, les spéculations dans la fin de semaine semblent prendre le bord et ça semble pas prêt de se régler du côté de l'Iran. Benjamin Netanyahou, du côté d'Israël, même, ça continue de brasser alors qu'il donne l'ordre de prendre 70% de la bande de
Quel
Gaza.
Quel fou! Quel fou!
Les vrais enjeux des jours sur notre page YouTube.
Bon! Le caucus avec Antonine Iaccarini, chaque jour du lundi au jeudi dans l'émission On en jase. On a réglé le cas du troisième lien.
Check.
Maintenant, Bruno Marchand va être en faveur du troisième lien grâce au troisième rien. Mais là, il faut qu'on se parle maintenant tantôt.
Hey!
J'ai-tu dit de quoi?
Jean-François Fortin.
T'as pas des nièces, des neveux?
Oui, c'est vrai, j'ai plusieurs filles.
Ah, bah, ben,
c'est pas problématique d'abord.
T'appelles ma tante?
On peut pas dire ça des femmes.
Ouais, pourquoi? Pourquoi j'ai pas le droit de dire ma tante?
Mon oncle Jeff.
Ben, j'ai des neveux et des nièces.
Mais t'aimes-tu ça, toi, de faire appeler mon oncle? Mon oncle Jeff, mettons au bureau, on t'appelle de même.
Ouais, non, c'est vrai que je vais avoir l'air un petit peu pas dans mon temps. Hein?
Mm.
Ouais. Fait que t'aimerais pas ça? Je peux pas maintenant introduire le caucus en disant « On est avec ma tante Antonine!
» Non, ou bedon, ce que j'entends beaucoup en politique, ouais, c'est « la ». Quand on parle d'une
politicienne... Oui, ah oui, la fraîchette.
La fraîchette. Ouais. La marois.
Toi, Bam, ça se dit vraiment la Yacarini.
La Guilbeault, la Yacarini.
Ouais, ah, la Guilbeault, là, les poils me... Gars, ça me lève.
Ah,
tu l'as
vrai.
Dit, les J'étais poils moins... me lèvent.
Ça, c'est dégueulasse.
Ah, ça mérite. Ah. Ça mérite complètement, tu sais, Geneviève Guilbeault, qu'on soit d'accord ou non avec ses prises de position. Elle a quand même bien été en politique, elle a été la vice-première ministre. Elle mérite pas de se faire appeler Guilbeault.
J'ai jamais entendu personne dire le Legault.
Moi non plus.
Le Jolin Barrette.
Non plus.
Personne dit ça.
Le Girard, au final.
Le Girard.
Hey, le Girard, là!
T'es pas mort, mon Girard.
C'est ça. Et là, pourquoi on parle de ça? Discours d'Éric Duhaime hier, lors de son lancement de campagne dans Bellechasse.
C'est pas à François Legault, ni à Pierre Fitzgibbon, ni à la successeur des deux, Christine Fréchette, de choisir qui doit avoir du succès en affaires au Québec. C'est avec votre mérite que vous faites de l'argent, pas avec des subventions de ma tante Christine. Et...
As-tu remarqué le... Ouais, c'est ça. Tu l'as remarqué comme moi, c'est pour ça que j'ai laissé... Ouh, qu'est-ce qui vient de
Ils
dire là?
Il y a une couple de personnes qui sont convaincues que c'est
non,
bon.
Non, c'est ça, t'sais. Mais c'est un échappé majeur, on s'entend.
Ben, c'est majeur. Ça se fait pas. Mais je comprends le principe là, de dire on appelait François Legault mon oncle François,
ouais,
souvent, un peu comme un colibet, là, tu sais, c'était pas gentil. C'était pour montrer qu'il était passé date ou paternaliste. Mm-hmm. Mais l'équivalent féminin, c'est pas toujours. Ça m'a fait penser. Connaissez-vous la chanson de Fatal Bazooka? Connaissez-vous Fatal Bazooka?
Ben non!
Okay.
Mais dis-moi ça.
J'aurais dû dire ça avant
ça.
Le show, là, parce que là, t'avais
ben non, mais c'est facile.
Mais il fait juste une liste de mots qui, au masculin, veulent dire quelque chose, mais au féminin, ça veut dire, excusez-moi, c'est vulgaire, pute. Okay?
C'est quoi le nom de la chanson?
Ben, c'est une pute.
Mais le nom de la chanson, c'est une pute ou c'est Fatal Bazooka,
Fatal...
le nom de la chanson?
Non, le gars s'appelle Fatal Bazooka, la chanson, c'est... C'est une pute.
C'est une pute.
OK,
une pute.
Donc, mais bref, ça pour dire que c'est pas parce que tu fais juste changer le genre d'un mot que ça veut dire la même chose. Être ma tante, ça fait un peu misogyne, tu sais.
Puis je veux dire que ça ne vous offusque ou pas, là. En tant que politicien, en tant que chef de parti, faut que t'en sois conscient. Tu peux pas t'échapper comme ça, là. Je veux dire, peu importe où qu'on se situe par rapport à ça, puis qu'on dit « Ah, oh, c'est pas grave, c'est pas la fin du monde », ça reste que c'est un échappé majeur. Là, de... Ben, pas majeur, mais...
C'est un échappé, c'est l'échappé.
C'est un échappé, c'est ça. Tu peux pas te permettre ça. C'est très maladroit de sa part.
C'est maladroit, puis c'est surtout, c'est dommage, parce que c'était le lancement de sa campagne, sa candidature à lui. Donc, ça doit être un événement où il se met en valeur. Puis j'ai trouvé que c'était un peu cheap.
Ouais, c'est Fatal Bazooka.
Dans quelques instants, mais tout de suite, on retrouve un message du ministère du meilleur ami de l'homme. J'ai nommé le ministère de la femme avec un message 100% macho sans guacamole. C'est pour vous, les ladies.
N'en déplaise aux puristes, la langue française demeure beaucoup trop machiste. Rien n'a changé. Un gars, c'est un jeune mec et une garce.
C'est une pute.
Un coureur, c'est un jogger et une coureuse.
C'est une pute.
Un chauffeur, il conduit le bus et une chauffeuse.
C'est une pute.
Un entraîneur, c'est un coach sportif et une entraîneuse.
Bah, c'est une pute.
Un homme à femme, c'est un séducteur, une femme à homme.
C'est une pute.
Un chien, un animal à quatre pattes, une chienne.
C'est une pute.
Un cochon, c'est un mec sale, une cochonne.
C'est une pute.
Un salaud, c'est un sale type, une salope.
Bah, c'est une pute.
Un allumeur, ça allume le gaz, une allumeuse.
C'est une pute.
Un masseur, c'est un kiné, une masseuse.
C'est une pute.
Oh, j'adore!
Voilà, alors...
C'est tellement drôle et vrai.
Ben, on peut pas
c'est
juste
ça.
Changer le genre d'un mot.
Non,
ça
non,
change
non,
le sens.
Exactement. Éric Duhaime, justement, ce matin, sur nos ondes, on l'écoute, voici la façon qu'il s'est défendu.
Ben écoute, j'ai pris le même discours que je faisais avant quand je parlais pour dénoncer les subventions puis le paternalisme de la CAQ avec son interventionnisme de subventions
ouais.
à la Northvolt et Lyon Électrique. J'utilisais mon oncle.
Ouais, c'est ça.
C'est pas irrespectueux, là. Je veux pas d'aucune façon manquer de respect à la première ministre. Au contraire, là, je trouve ça heureux. Je l'ai même salué quand elle a été élue, là, qu'une femme accède à la plus haute fonction au Québec pour la deuxième fois. Je pense que ça témoigne de l'ouverture des Québécois. Puis je pense que c'est tout à notre honneur. Fait que c'était pas une attaque contre les femmes, là. J'ai fait le je l'ai fait pas mal souvent avec M. Legault, puis ça n'a jamais marqué. Il n'y a jamais personne qui m'en a reparlé.
OK, premièrement, Benjamin dit « Hey, man, Antonine qui sort Fatal Bazooka, c'est une pute, c'est simplement incroyable. »
C'est jeudi, c'est comme mon vendredi.
Exactement, merci, Anto. Éric qui mentionne « Duhem a le don d'avoir l'attention médiatique pour les mauvaises raisons. » En effet, on s'en reparle. Mais moi, là... C'est-tu, moi, là, qui a trop l'oreille sensible, là, mais tu sais, les Québécois ont accepté de mettre une femme au pouvoir pour la deuxième fois, ça montre l'ouverture. Blablabla. On n'a pas besoin de parler de même.
Ben, non, je pense qu'on a besoin parce que la parité n'est pas atteinte dans la vaste majorité des juridictions.
C'est moi dans ma tête qui vois trop d'égalité, puis je me dis, moi, Christine Fréchette a été une femme comme première ministre. Ça,
ouais.
Pour moi, c'était pas un événement parce que je me dis, on est là en démocratie.
Ben écoute, au Canada, il n'y en a jamais eu une deuxième.
C'est vrai, t'as raison.
Aux États-Unis, il n'y en a jamais eu.
Ben, je m'excuse pour mon ouverture d'esprit.
En France, il n'y en a jamais eu.
Ouais, je m'excuse.
Au Royaume-Uni, il y en a eu. Mais bon. Tu sais, bref, je pense que c'est quand même notable maintenant. Est-ce qu'il faut en faire un fromage? Bien sûr que non. Puis est-ce que c'est une erreur fatale pour continuer dans la lignée de Fatal Bazooka pour Éric Duhem? Ben non, là, c'est pas grave. Là. C'est juste que Éric Duhem, il doit se rappeler que les sondages démontrent que c'est un des chefs les moins appréciés. T'sais, y a beaucoup de gens qui sont épidermiquement allergiques à Éric Duhem. Puis c'est justement pour ce genre de petits détails-là. C'est pas sur le fond des choses. Moi, je pense qu'au contraire, au Québec, il y a un terreau assez fertile pour les idées conservatrices.
Oui.
Mais tout est dans la manière. Donc, drapeau jaune pour Éric Duhem.
Ben, je suis d'accord. Puis je rejoins Éric qui dit justement, il a tendance à faire parler de lui pour les mauvaises raisons. Puis, tu sais, il a fait parler de lui dernièrement. Pourquoi, tu sais, Bellechasse? Tout le monde a dit, ben voyons, qu'est-ce que ça va faire à Bellechasse? Ça va juste dans un comté gagnant. Là, il fait parler de lui pour la matante. Tu sais, ça va pas bien, là.
Puis, c'est pas la première fois qu'Éric Duhem fait une sorte de déclaration choc ou que c'est vraiment 3-4 mots qui retiennent l'attention. Mais le problème, c'est que ça arrive tellement souvent que c'est pas nécessairement une bourde qui va te mettre dans le pétrin. Mais quand ça en fait plusieurs, le monde, ce qu'ils retiennent, c'est ta citation de 3-4 mots, c'est pas ton explication après. Là. Le monde voit la citation « Ma tante Christine »,« Mon char, mon choix ».
En effet.
Qui frappe comme ça, le monde va juste retenir ça et non c'est ça, nécessairement l'explication derrière tout ça.
Puis les excuses après qui viennent. Ça me fait penser à quand Jean Charest avait traité Elsie Lefebvre à l'époque de... un mot qui était dans le la chanson du Fatal Bazooka. Après ça, t'as beau t'excuser, ça fonctionne pas. Donc, attention. Puis surtout, là, on tombe dans les ligues majeures là, pour le Parti conservateur.
Ben, c'est ça, là.
Tu veux plus rester marginal.
Tu sais, j'écoutais des conférences de presse de l'élection 2022 où... je vous le dis, là! Après le 4 octobre, ils vont encore nous isoler! On est plus là, là.
Je suis comme agressé.
Non, mais je sais, mais c'était ça!
C'est une micro-agression.
Attendez, après le 4 octobre, les masques! On va remonter les masques!
Au secours!
C'était ça, là, le Parti conservateur. Faut que ça aille brun un petit peu plus loin, là, tu sais. Puis là, c'est ça. C'est rare, je fais des imitations.
Va-tu avoir une tempête de neige?
Ah non, chef, il est parti.
Okay.
C'est la pluie dehors, je pense.
Ouais, c'est ça.
OK, on se rapplombe. Bon, ceci dit, pas la meilleure semaine pour Christine Fréchette quand même, et on l'écoute hier sur la dette du Québec.
C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui?
La dette nette aujourd'hui...
Est-ce que vous n'avez pas l'idée du chiffre, Madame la Première ministre?
Ben, je voudrais vous donner le bon chiffre.
Environ. Je vous donne du jeu, là. Il n'y a pas de...
Comment? 36% du PIB.
En fait, non, je veux la dette nette en chiffre, en dollars. Est-ce que vous savez c'est quoi?
C'est qui la dette nette?
J'en conclue, Madame la Première ministre, que vous ne savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec.
Je vous reviens.
Ça me semble assez clair, M. le Président.
Ah, il n'est pas fin. Il m'énerve.
Mais c'est correct, je vais vous le dire, c'est 259 milliards. Hein?
Tu le trouves pas fin, mon contrat? J'ai trouvé qu'il n'est pas rentré dedans pantoute. Il a fait son affaire pour ses petites questions, puis je vais vous le dire, 259 milliards. Toujours dans le même ton. Comment ça, tu le trouves pas fin?
Premièrement, moi, sur le compteur de la dette québécoise, je vois 379.
Ouais, moi aussi, c'est ça que je vois, mais j'imagine que ça doit être la dette avec les intérêts cumulés.
Je sais pas.
Parce que moi aussi, quand j'ai fait ça, mais quand j'ai demandé à l'intelligence artificielle, on m'a dit que la dette nette était de 259 milliards.
Bon, c'est des détails. Oui. Maintenant, moi, oui, je le trouve un peu pas fin parce que, évidemment, c'est son rôle de mettre la première ministre ben oui. à l'aise. C'est bien correct. Mais dans les faits, je me suis vraiment posé la question. Est-ce que c'est grave de ne pas savoir le montant de la dette? Il faut avoir une idée, là. Je veux dire, quand
ouais, moi, c'est le fait qu'elle n'a aucune idée.
Mais c'est ça qui était problématique.
Puis même le ratio dette sur PIB, là, c'est, elle se l'est fait chuchoter derrière.
Oui, oui, c'est ça.
Elle ne connaissait pas le pourcentage non plus. Le 36 %, elle se l'est fait chuchoter derrière, puis elle n'avait pas d'air trop sûre.
On s'entend. Puis c'est comme ça que ça se passe dans l'étude des crédits. Ouais. Soit dit en passant, c'est impossible pour aucun élu que ben ce non, soit ben de non, tout ben savoir non. en temps réel tout le temps. Okay, c'est pas possible. Clair. C'est pour ça,
que là,
ça qu'on travaille
ton équipe en arrière.
Bien sûr.
Mais moi, je m'attendrais à ce que ma première ministre, elle aurait dit 270 milliards. Elle aurait dit le 379 que tu as sur le site web de l'Institut économique de Montréal.
Jeff, André Fortin, il aurait pu aussi demander c'est quoi le prix de la pinte de lait. C'est combien ça coûte une pinte de lait, Jeff?
Ben, une pinte de lait?
Un litre ou deux litres?
Deux litres, mettons.
Ouais,
deux litres,
ça
là,
coûte
là,
à peu près 6,5, je te dirais.
6,5, tu vois, je savais pas ça, moi, c'est parce que je fais pas l'épicerie.
C'est pas 4,50, une
peut-être,
pinte de
aucune idée.
Deux litres, c'est plus 6,5.
C'est quoi le coût moyen d'un logement au Québec?
Le coût moyen d'un logement au Québec, là...
Tu parles avec... d'un 4,5?
Aucune idée. Regardez, ouais,
c'est ça. Avec
gars,
la hausse
mon point...
des coûts, ça doit être 1,400.
Mon point, c'est que quand t'es dans l'opposition puis tu fais l'étude des crédits, tu peux garocher des questions quiz de même. Tu vas en trouver une. Monsieur Legault s'était fait pogner avec les logements à Montréal. Il avait dit que ça coûtait 500$.
Bon, oui, en effet. Puis Philippe Couillard s'est fait pogner que l'épicerie à 70$.
Regarde, c'est toujours possible de le faire. Je me suis posé la question. C'est pas bon, là. Je vous dis pas, je veux pas dire, waouh, quelle excellente performance de Christine Fréchette hier. C'était pas bon, OK? Mais est-ce que je veux que la première ministre du Québec ou le premier ministre, peu importe son parti politique, passe des heures à étudier par cœur des données qui changent absolument rien dans la gestion à très haut niveau d'un premier ministre, quand tu as déjà t'as un ministre des Finances, je crée bien,
ouais.
des fonctionnaires au ministère des Finances qui savent ça en temps réel aussi. Moi, je trouve que c'est pas utile pour le citoyen.
Ah, vois-tu, moi, je suis en contrepartie avec toi parce que je m'attends au moins à ce que notre première ministre ou notre premier ministre connaisse les grandes lignes au niveau de la dette. Ben, c'est dans mes attentes.
Je comprends.
Là, j'ai vu qu'elle avait une méconnaissance totale.
Ben, pourquoi totale?
Ben, parce que
elle avait le pourcentage du PIB, elle
non,
sait pas
rien.
Non,
mais ça, ça l'est fait donner par en arrière. Elle l'avait pas par elle-même.
Oui. Moi, je vois pas vraiment l'enjeu. Puis ça va en devenir un, parce que tout le monde trouve que c'est bien épouvantable. Mais moi, je trouve que Mme Fréchette, cette semaine, sa semaine là, qu'elle a eue, c'est pas une bonne semaine. Okay. Ouais. Il s'est passé plusieurs choses. Le courriel d'Éric Girard, après ça, les annonces de lundi qui n'ont pas été bien accueillies.
Du tout.
C'est une catastrophe. Après ça, il y a eu le camp du oui, camp du non. Là, on s'est mis à faire du pointage, à savoir qui votait oui, qui votait non à la CAQ. Et l'étude des crédits, pas super performance de sa part. C'est juste une semaine normale en politique en passant. C'est que là, on compare beaucoup avec son « sans faute » que je mets entre guillemets du début. Et je veux juste dire, il n'y avait pas d'Assemblée nationale. C'est sûr, c'est facile.
Non, je sais. Ben c'est ça. Donc, est-ce que ça démontre une certaine faiblesse à débattre? Est-ce que ça démontre une certaine méconnaissance de dossier? Parce que, tu sais, juste hier, et on l'écoute, sur la taxe concernant l'assurance...
50$ par année, c'est 96 sous par semaine. C'est bien ça?
Ça, c'est une moyenne.
Je vous demande très précisément, là, il y a une taxe sur les produits d'assurance qui va faire en sorte que quand on achète une assurance auto, une assurance habitation, on va payer plus cher parce que vous augmentez le taux de taxation. Vous n'étiez pas au courant de ça?
Écoutez, c'était pas dans mon territoire à moi au moment où ça a été annoncé. J'étais à l'économie, à l'innovation, à l'énergie. Donc, j'étais pas nécessairement au fait.
Quand vous avez dit... Je veux des mesures pour, comme vous le dites, là, alléger le fardeau des Québécois. Est-ce que vous saviez qu'il y avait des mesures pour augmenter le fardeau des Québécois qui s'en venaient?
Écoutez, j'entendais pas de retourner à des décisions qui ont été prises dans des budgets antérieurs.
Ça, c'est-tu plus majeur que la dette? C'est ce que je pense aussi, parce que les auditeurs là, par texto me disent « Hey, crème, moi, je considère qu'il faudrait qu'elle connaisse la dette. » C'est correct, c'est votre opinion, puis j'ai la même opinion que vous. Mais ça, pour moi, c'est plus majeur parce que.
Ben là, elle vient de faire des annonces sur le coup de la vie.
De faire, c'est ça.
Oui.
Mais tu penses pas, puis si tu voulais marquer une fracture avec Legault, t'as enlevé cet 1%-là.
Tu sais, je reviens sur sa performance de façon générale. Elle a pas moins bien performé que François Legault en études des crédits. OK? Soyons clairs ici, là. Mm-hmm. On est plus dur avec elle cette semaine parce que là, c'est un petit peu ce que j'appelle la trame narrative de la semaine. Okay?
Ben parce, oui, puis là, parce qu'elle est sur le terrain aussi. Là.
Oui.
C'est comme un peu le Canadien qui shotte pas au but.
C'est un peu la même chose, effectivement. Et lundi, elle avait des annonces sur le coût de la vie. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui a échappé quelque chose. Parce que si on dit on baisse les tarifs des Québécois, on remet de l'argent dans le portefeuille, bien, il faut savoir les zones de risque. Tu sais, quand tu briefes un ministre ou que moi, mettons, j'aide un client à préparer quelque chose, on va dire, OK, voici ce qu'on dit. Là, attention, zone de risque. On est plus fragile sur ça parce qu'on a fait ça avant. Il ne faut pas l'oublier. Puis là, évidemment, ils ne vont pas le mettre de l'avant plus qu'il faut. Mais je veux juste dire aussi que quand ça, ça a été mis en place, là, cette hausse de taxes-là, personne n'a rien dit. Les oppositions se sont pas... Tu sais, il s'est rien passé. Puis là, bang, ça revient comme un boomerang. Ça, ça a été échappé. Il y a eu aussi un autre échange avec le chef du PQ qui lui a posé des questions sur Nemaska Lithium, gros dossier avec pas mal d'argent public aussi. Et on n'avait pas de réponse claire. Donc, PSPP qui voulait savoir, étiez-vous au courant de cette étude, de ce rapport sur les risques qui ont été mis en lumière dans les médias cette semaine et que c'était flou.
Faut que son équipe soit meilleure aussi. Puis là, ça m'amène au point qu'il y a énormément de gens qui ont quitté le bateau de la CAQ. As-tu trouvé une équipe de juniors?
C'est sûr que la moyenne d'âge a baissé à la CAQ là, depuis quelques mois. C'est normal. C'était la même chose au fédéral dans les dernières années de Justin Trudeau.
Ouais.
Maintenant, moi, je ne vois pas un problème de compétence tant que... En fait, de niveau de compétence, mais peut-être un problème de type de compétence. Je m'explique.
Vas-y.
Les gens les plus politiques... Là, les plus sneaky, là, qui, des bêtes de stratégie politique, étaient davantage dans l'entourage de M. Drainville. Autour de Mme Fréchette, on est plus dans des gens de gestion de l'État, grande politique publique.
On est-tu plus dans gestion marketing aussi, l'image? Parce qu'on a fait beaucoup une image.
Pas plus ou moins, que M. Legault ou M. Drainville, mais j'ai l'impression qu'ils sont un petit peu moins sur d'où pourrait venir le prochain coup.
Ah, ils sont moins prévoyants.
Des gens, tu sais, il faut
ils
dire aussi...
Ils ont moins d'expérience pour voir où est-ce qu'on va se faire pincer dans le détour.
Il faut avoir travaillé dans l'opposition aussi, je pense. Pourquoi? Puis il y en a, là.
C'est vrai.
Je veux pas dire qu'il y en a pas, mais quand tu as travaillé dans l'opposition, tu connais les trucs de l'opposition.
Puis j'ai l'impression que c'est pas juste avec l'opposition, c'est avec les journalistes aussi pour avoir couvert quelques points de presse de Mme Fréchette. Parce que c'est sur l'annonce du jour. Elle est très bien préparée. Mais quand on passe sur des questions en lien avec d'autres sujets, on aurait dit qu'elle n'a pas été bien préparée par son équipe. Je me souviens à un point de presse qu'on avait questionné sur son aide à Koyan.
Elle n'avait pas de réponse.
Mais elle se souvenait même pas qu'elle a répondu, c'est au chef du Parti libéral, mais c'est plus une députée libérale.
Oui, puis là, à sa défense, les crédits... Bon, l'étude des crédits, pour ceux qui ne savent pas c'est quoi, qui nous écoutent, c'est un exercice de reddition de compte qui... génère une dépense d'énergie de la part de tout le monde qui est énorme. Okay? Donc, dans le fond, d'abord, il y a les fonctionnaires qui vont préparer des gros cartables avec tout ce qui a été dépensé dans une année. C'était beaucoup de papier à l'époque. Il y a peut-être un peu plus de numérique qu'à mon époque. Après ça, les oppositions soivent ça. Et là, ils épluchent pour essayer de trouver des affaires pour attaquer le gouvernement. Okay? Puis des fois, ils vont trouver des choses vraiment dans les crédits, puis des fois, ils vont juste aller sur le sujet du jour, puis regarde, comme Marc Tanguay, là, votez oui, votez non, c'était pas dans un cahier de crédit. Là. Il a trouvé ça dans sa tête. On s'entend, c'était très bon. Puis après ça, on va briefer les ministres. Là. C'est des briefings. C'est énormément d'infos. Imaginez quand t'es premier ministre. Là, c'est n'importe quel dossier.
C'est pour ça que je dis que ça te prend une équipe solide derrière, là.
Ben oui, puis d'ailleurs, je me pose la question. Hier, quand elle s'est fait demander pour la dette, son sous-ministre juste à côté, lui non plus, il n'a pas de notion.
Oui, c'est ça, puis ça ne tentait pas juste de googler en 2 secondes, il y aurait eu une réponse.
C'était long, hein?
C'est l'enfer. Écoute, l'extrait 44 secondes, on cherche ça. Un matin, ça m'a pris 2 secondes sur mon ordinateur.
Puis c'est 40 secondes qui avaient l'air de comme une
heure. Oui, exactement. Hey, tu fais le point, justement, en parlant d'études de crédit. Tu as parlé de Marc Tanguay, on l'a fait jouer hier, qui en fire wipé complètement, Jean Boulay, dans le camp du non. Ça va faire mal à Christine Fréchette, on écoute.
Advenant un référendum sur la souveraineté, la première ministre se rangerait dans quel camp?
Nous, on est dans le camp des Québécois. Les Québécois n'en veulent pas de référendum et c'est le parti qu'on a choisi, c'est le camp des Québécois.
Alors, ce que la première ministre nous dit aujourd'hui, c'est que si le Parti québécois est élu et qu'elle est députée de Saguenay, elle va rester sur les lignes de côté?
Les Québécois ne sont pas là. Les Québécois ont évolué. C'est en phase avec les Québécois qu'on avance. On travaille notamment sur le coût de la vie.
Les Québécois ont évolué, mais est-ce qu'elle a évolué? Parce qu'en 1995, elle a voté pour le oui. Alors, est-ce qu'elle a évolué depuis?
J'ai évolué. Je suis dans le camp des Québécois.
Et vous ne l'étiez pas.
Et les Québécois n'en veulent pas de référendum. On travaille pour qu'il n'y en ait pas. C'est notre orientation.
Pauvre elle.
Mais en même temps, Marc Tanguay aussi a voté oui en 1980.
Exactement. Non, non, mais ce que je veux dire, pauvre elle, là, c'est que son équipe vient complètement de la mettre dans une position inconfortable avec « Hey, moi, je vais être dans le camp du Nord, M. Tanguay, avec un petit sourire en coin. » Jean Boulay, il avait le goût d'aller...
Il a ouvert une boîte de Pandore.
Hey, il avait le goût là, de prendre Marc Tanguay dans ses bras et de dire « On va les battre, les méchants souverainistes, ouais. quand ils sont dans deux partis politiques différents. » Puis après ça, Mathieu Lacombe qui a senti le besoin de dire « Wow, minute,
mais de compenser.
La CAQ, on n'est pas fédéraliste. »
Mais d'ailleurs, j'ai remarqué que les gens trouvent que c'est une plus grave erreur Mathieu Lacombe. C'est comme si c'était logique. T'sais, tout le monde le sait qu'il y a des fédéralistes.
Ouais.
Puis des anciens
ben là,
souverainistes.
Voyons, ouais, ouais, mais là...
Mais les gens, ils ont appris cette semaine que Mathieu Lacombe était souverainiste.
Hey, moi, ça m'a pas... En début de mandat, je l'ai pas appris, moi.
Ben, en début ça de mandat, il l'était pas. Hein?
Non!
Non.
C'est vrai, il vient d'Outaouais.
Je pense que plus tu... plus tu connais la machine, plus tu as affaire au fédéral, plus tu deviens souverainiste.
En effet, ça se
fait. Cela dit... T'as raison, Christine Fréchette, c'est vraiment tannant pour elle. Ça a mis beaucoup, beaucoup de fritures sur la ligne cette semaine. Mais c'est pas parce que Jean Boulay n'aurait pas fait ça qu'elle serait pas dans la même situation. Mm-hmm. Parce que la position de la CAQ est un petit peu plus compliquée. C'est non binaire.
Mais c'est parce que depuis que Boulay et Lacombe ont fait leur sortie dans une situation perdant, puis je m'explique. C'est que ça, elle arrive, puis elle dit à André Fortin hier, « Hey, écoutez, j'en veux pas de référendum, fait quoi, je vais être dans le camp du non. » Ben là, PSPP a la porte grande ouverte. « Gardez la gang de fédéralistes, votez pour moi, la nation, l'identité, etc. » Ça, elle dit, « Ben écoutez, ben, là, j'ai voté oui en 95, fait que s'il y a un référendum dans le premier mandat, si le PQ prend le pouvoir puis il y a un référendum, je vais voter oui encore. » Et crime, là, c'est les libéraux. Même affaire, la CAQ veulent nous séparer,
oui.
L'incertitude.
Puis pour les libéraux, fait c'est parfait, fait, là. Parce que c'est le seul parti qui est fédéraliste.
Ben oui.
Bon, seul parti. Là, Éric Duhaime dirait le contraire, mais Éric Duhaime aussi a été péquiste à l'époque. Hein? Donc, les libéraux peuvent dire que c'est tous des cryptos crypto-souverainistes.
Éric Duhaime était conseiller pour Mario Dumont quand il a fait partie du camp du oui.
Donc, voilà. C'est pas une très bonne semaine en termes de communication politique. Elle s'est retrouvée sur la défensive. C'est pas nécessairement Charles Milliard qui l'a mis sur la défensive, parce que je me disais, au début de la session, on trouvait que c'était lui qui était sur la défensive. L'équipe de Fréchette avait réussi, avec l'histoire de la clause dérogatoire, à le mettre sur la défensive. Là, c'est Éric Girard qui a mis Christine Fréchette sur la défensive. Puis après ça, ça a été la thématique du reste la semaine.
Mais je te fais écouter, Éric Girard, il a essayé de se rattraper. Écoute bien ça.
Okay.
C'est très simple. La première ministre était très bonne. Elle connaît le chiffre en pourcentage du PIB qui est, lorsqu'on est arrivé au pouvoir en 2018-2019, il était de 43% du PIB. Aujourd'hui, il est 39%. Et puis, juste pour être clair avec tout le monde, là, oui, la dette nette, elle a augmenté depuis qu'on est au pouvoir, mais les deux tiers de l'augmentation, là, ce sont des dépenses en infrastructure extrêmement nécessaires et importantes qu'on fait pour tous les Québécois. Monsieur
Je m'excuse, je dois m'en aller. Il a pointé l'escalier, je m'en vais. Parce que là, il s'est dit, hop, je viens de dire le mot infrastructure.
Il a ouvert une autre boîte. Mais moi, je suis d'accord avec ce qu'il dit. Fait que je sais qu'il y a pas mal de monde là,
moi,
qui
trouve
que c'est bien épouvantable. J'ai pas dit qu'elle était bonne. Je dis juste que moi, je veux pas que les premiers ministres perdent leur temps pendant 8 heures à apprendre des niaiseries.
Je suis très d'accord avec toi.
Sur le détail près.
Mais la dette, pour moi, c'est pas une niaiserie, puis je veux juste qu'elle ait un environ d'eux.
Ben en fait, moi, pour moi, la niaiserie là-dedans, c'est Éric Girard. Excuse-moi. Non, mais honnêtement, Christine Fréchette ne connaît pas la dette nette. De base, ça crée scandale présentement. Mais Éric Girard, le lendemain, c'est rire du monde de venir dire « Madame Fréchette était excellente,
très bonne.
Elle était très bonne.
Ben, » je pense qu'il faut qu'il se rattrape.
Ben non, c'est ça, là.
Faut qu'il se rattrape. Mais un citoyen normal qui est fâché de voir que Christine Fréchette connaît pas la dette du Québec, puis le lendemain matin, il se réveille, puis c'est le ministre des Finances qui lui explique « Ben non, Madame Fréchette était excellente, elle connaissait les chiffres. »
Parce que samedi, Éric Girard, il a donné un coup de pied à Christine Fréchette, il l'a fait chavirer à l'eau du bateau. Puis là, aujourd'hui, il a juste tiré à bouée. Mais ça a pris 4 jours, fait que là, elle est un peu en difficulté.
Pauvre Éric. Hey,
moi, je veux terminer avec toi.
Ouais.
Demain?
Demain.
Ben, demain.
Qu'est-ce qu'il y a demain?
Ben, ça va être l'amour à Saint-Hyacinthe.
Ah oui!
Et François, Paul Saint-Pierre Plamondon, ils vont être ensemble.
Unis.
Unis.
Pour la vie.
pour Simon-Pierre Savard-Tremblay. Ça, ses
parents...
Savais-tu
c'était qui?
Ça, ses parents ne l'aimaient pas, hein? Simon-Pierre.
Mais ça, c'est un bon conseil. Si vous voulez donner un nom composé à vos enfants, choisir
un nom composé.
Ah oui,
pas un prénom composé, là. C'est ça, juste un nom de famille. Ou si tu prends deux noms de famille, juste un prénom. Parce que là, Simon-Pierre Savard-Tremblay... Mais remarque, ça marche. C'est PSPP, donc lui, c'est SPST.
C'est mélangeant.
PSPP va présenter SPST.
Je peux pas apprendre deux acronymes de même là, en même temps. Non.
Donc, dans Saint-Hyacinthe, ce qu'on comprend, c'est que je le connaissais pas du tout. Donc, c'était une grande vedette du Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay, SPST. Et là, il va se présenter dans le comté de Saint-Hyacinthe pour le Parti québécois. Puis on va en faire un gros show demain parce que ça va être le show de l'unité entre le Bloc et le Parti québécois. Pourquoi? Pour notre nation, notre pays, notre Québec.
Oui, puis le pays, on a toujours dit, ça se fera pas à Ottawa.
Exactement.
Il veut être aux premières loges.
Fait que là, lui, il s'en va à Québec.
Oui, ça fait quelques mandats qu'il est élu. SPST, non c'est ça?
Oui, SPST.
Mais regarde, tu vois, je vais l'apprendre.
C'est fort.
Moi, je savais c'était qui quand même. C'est quelqu'un aussi qui était très présent dans l'espace public avant de se présenter comme député. C'est un souverainiste convaincu qui participait au débat public là, dans des chroniques, des lettres ouvertes, etc. aussi. Ah, qu'est-ce que tu es en train de me mettre là?
C'est le seul qu'il reste. C'est Jean Dupuis?
Ah, c'est Jean Dupuis.
Continue de parler quand ça va devenir
Jean Dupuis. Faudrait qu'on parle de Gilles Vigneault éventuellement. Ouais. Faudrait qu'on y rende honneur davantage.
Deux journées en ligne avec Paul Pichet.
Mais ça, c'est pas Paul Pichet.
Oui, c'est la version Paul Pichet-Gilles Vigneault.
Ah! Paul Pichet chante avec... Mon Dieu.
Ben oui,
hey.
C'est votre tour.
Ça, c'est Gilles.
Ben oui.
De vous laisser parler d'amour. C'est votre tour de vous laisser parler.
418-971-1021, aimez-vous mieux Fatal Bazooka ou Jean Dupuis?
Ou la parodie de Rock et Belles Oreilles de Gilles Vigneault. Ça vaut 100$. Tout ça, c'est sur YouTube en passant. Là.
Est-ce que tu... ouais, continue donc sur
SPST. Qu'est-ce que tu veux savoir?
SPST, là, c'est qui lui-là? Là?
Bon, peu importe qui il est. Je pensais à la situation du Bloc québécois en voyant qu'il perdait un député. Tu sais, récemment, il y avait pas mal de conservateurs qui traversaient la Chambre pour aller vers les libéraux. Il y avait même quelqu'un du NPD qui a traversé. Il y a un autre député du NPD qui s'en va chez QS, Alexandre Boulris. Mm-hmm. Puis là, on se disait, mon Dieu, juste le Bloc, on dirait que tout le monde est on board, là, puis que les députés ne quittent pas. Finalement, ben aujourd'hui, la nouvelle tombe. Ça fait une candidature supplémentaire pour le PQ qui doivent être bien contents. Mais les élections partielles qui vont en découler. Parce que là, on a Saint-Hyacinthe qui va tomber en élection partielle éventuellement. Là, il va demeurer en poste, je pense, le plus longtemps possible.
Oui, parce que là, il va devenir indépendant.
Oui,
donc, j'imagine que la campagne électorale, normalement, commence après l'été. Fait qu'il va rester au moins jusqu'en septembre.
Au moins, puis on a six mois là, pour déclencher une élection partielle.
Parce que là, c'est l'ennemi commun, mon oncle Marc, qui a fait « Haha, peut-être un autre comté pour moi! »
Ben, c'est ça. Je regardais les projections sur Québec 125 pour Saint-Hyacinthe, 42 % Bloc, 36 % Parti libéral.
C'est serré.
Oui.
C'est quand même pas une grosse marge.
Non.
Et François Blanchet, qui va être présent pour la conférence avec le PQ, il va falloir qu'il prenne sur lui un peu, là, on s'entend, il doit être frustré de ça quand même.
Ben, ça doit pas être une excellente nouvelle.
Ben non, ouais.
En même temps, t'sais, je me mets à sa place, peut-être qu'il se dit, bon, écoutez, il y a un contexte là, en ce moment là, avec le PQ, on a une chance
pour
de faire un référendum pour le pays. La note de la fin.
La belle finale.
Deux autres élections partielles fédérales à venir aussi. Laurier-Sainte-Marie, évidemment, avec le départ bientôt de Stephen Guilbeault. Je regarde les projections, libéraux 52 % NPD 20 % Honnêtement, moi, je ne peux pas croire que le NPD va faire 20 % mais on verra évidemment qui seront les candidats. Le Bloc à 14 % Laurier-Sainte-Marie, ça a été longtemps bloquiste. Ça a été le comté de Gilles Duceppe.
Quand
il était chef du Bloc. Donc, c'est pas une bonne nouvelle pour le Bloc de voir que c'est à 14 % Évidemment, il y a encore beaucoup de changements démographiques dans ces circonscriptions-là. Et la dernière partielle sera dans Rosemont avec le départ d'Alexandre Boulris. Et là, les libéraux pourraient aller faire un gain. On voit les projections, 41 % pour le NPD, 32 % pour les libéraux. Oubliez ça, là. À moins que le NPD présente, là... Je sais pas, là. J'ai même pas d'idée
mais
à vous.
Quel candidat vedette, entre guillemets, voudrait se présenter pour le NPD de toute façon?
Ben là, ça va pas super bien au NPD. Pas beaucoup d'ancrage au Québec. Dans le fond, Alexandre Boulris, les gens votaient pour lui.
Oui, ils votaient pour lui, ils votaient pas du tout pour le NPD.
Donc, les libéraux qui sont à 32 % dans les projections, le Bloc à 15 %.
Hey, c'est énorme, la différence.
C'est quand même des grosses marges. Pour le Bloc, c'est difficile de voir un gain potentiel, mais pour les libéraux, ça pourrait être un autre gain. Donc, trois élections partielles fédérales.
Hey, ça va être intéressant. Yes! Je termine avec un texto d'Alexandre. Et merci, vous avez vraiment réagi énormément. On sent que les noms du troisième lien vous ont dégourdi pas à peu près. Je trouve les questions tellement hors contexte. En tant que citoyen, je souhaite entendre parler des projets, de la gestion financière de la province, des mesures pour les familles, etc. Je me fous de savoir si la première ministre voterait oui ou non. Je déteste le côté téléroman de la politique. Je suis entièrement d'accord avec toi, Alexandre.
Je peux le comprendre.
Ah oui, je suis d'accord avec toi à 100%. Merci de nous avoir écrit au 418-971-1021. Bon, on a réglé le problème de pont.
Ouais.
On a réglé le problème de ma tante. Parce qu'on s'était dit qu'il fallait régler trois problèmes. Bien là, après la pause, il en reste un. Les tirs au but du Canadien.
Ça, je ne rien pour vous. Bye-bye.
S'attaque à ça, les amis, avec Alex Laramé. Comment le Canadien peut bien tirer plus de fois que les Hurricanes? Ils perdaient 3-0 hier en troisième période. Ils ont fait trois lancers, deux quasiment derrière de la ligne bleue, puis les Hurricanes en ont fait 19.
C'est pas drôle. Je pense qu'on a plus de chances de régler le problème de troisième lien que le problème de tir du Canadien.
Aïe, 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 c'est tout dire. Êtes-vous d'accord avec Mathias Turcotte, 418-971-1021? On revient dans quelques instants avec Alex Laramé. On a vraiment du plaisir avec vous, chers auditeurs et auditrices de Boulevard 102.1. Vous êtes complètement capotés avec votre créativité. Merci de participer en si grand nombre au 418-971-1021. Il est midi 57 minutes. Honnêtement, là, c'est tellement apprécié de faire de la radio pour des gens engagés comme vous. Quel beau midi on passe.
On a du fun.
Oh que oui. Là, je le sais, il y en a qui vont revenir au travail à 1h. Ben c'est simple. BLVD.fm, c'est la web radio. BLVD 102.1, c'est notre application disponible sur App Store, Google Play Store. T'es à la maison, t'as un haut-parleur intelligent, t'es en télétravail parce que, hey, c'est ma journée au gouvernement où j'ai pas besoin d'y aller. Ou mon employeur est meilleur que le gouvernement puis il me donne le droit du télétravail. Mais haut-parleur intelligent, écoutez BLVD 102.1. Aussi simple que cela. Dans les prochaines minutes, on va s'entretenir avec Alex Laramé, notre chroniqueur sportif. Comment le Canadien peut pas y réussir à lancer au filet contre les Hurricanes, la Caroline? Mais avant, on s'informe avec Mathias Turcotte en manchette.
On va essayer de régler le problème de tir du Canadien. Du côté du gouvernement du Québec, on va avoir un méchant gros problème à régler au cours des prochains mois. Ce qui nous est révélé ce matin, c'est que le nouveau pont de l'île d'Orléans ne sera pas mis en service en 2028. On a pris du retard. Le projet qui doit présentement coûter 2,7 milliards va être mis en service plus tard que 2028 finalement. On n'a pas encore d'échéancier. On a dit qu'on allait nous revenir avec ça. Mais retenez bien ce mot-là, après 2028. Parce que ce matin, le bureau parlementaire de Québecor nous apprenait que l'ancien pont qui est fini, là, selon les rapports qui sont sortis puis qu'on construisait justement un nouveau pont d'urgence, bien, pourrait devoir fermer, et ce, dès la fin de 2027. Je vous rappelle, l'autre pont ne va pas ouvrir avant 2028, va ouvrir après 2028, en fait. L'ancien pont pourrait devoir fermer dès 2027. Faites un calcul, là, c'est au moins un an sans pont du côté d'Orléans si ce scénario-là se produit, ce serait une catastrophe.
Merci pour vos bonnes idées tout à l'heure au 418-971-101. Moi, j'ai retenu, on fait revenir Moïse et on sépare les eaux. Je pense que c'est la meilleure solution.
Tu vois, moi, c'est la catapulte de l'île d'Orléans vers
Beauport. Ce serait que la catapulte, je l'aime.
T'imagines-tu l'attraction touristique qu'on pourrait faire avec ça? Venez essayer la catapulte de l'île d'Orléans.
On pourrait faire de l'argent avec ça, puis comme ça, les dépassements de coûts, parce que même si on nous dit qu'il n'y aura pas de dépassements de coûts, il y a toujours des dépassements de coûts quand ça prend plus de temps. On va payer ça avec l'attraction de la catapulte. Mathias, c'est un entrepreneur, toi. Tu ne le savais pas encore, mais t'es ça.
Ben oui, je suis parti pour ça. J'ai tellement des bonnes idées. Faudrait que je conseille le gouvernement. Simon-Pierre Savard-Tremblay, c'est un député du Bloc qui va faire le saut en politique provinciale. Normalement, l'annonce va être faite demain par le Parti québécois, justement. Il devrait se présenter dans Saint-Hyacinthe, lui qui siège présentement pour le Bloc québécois. Donc, il fait en quelque sorte le switch entre les deux partis. Pour une question d'image, l'annonce qui sera faite demain devrait être faite en présence des deux chefs des deux formations politiques, donc Yves-François Blanchet et Paul Saint-Pierre Plamondon. On dit qu'on veut montrer une unité au sein des troupes souverainistes. J'en profite pour vous signaler qu'Isabelle Demers se retire de la chefferie de Lévis Force 10, elle qui avait tenté d'acquérir la mairie de Lévis aux dernières élections. Je termine avec Christine Fréchette qui a fait un discours devant la Fédération des municipalités ce matin. Elle dit que devant le déficit d'entretien colossal au Québec, il va falloir entretenir nos actifs, mettre la priorité sur ça et notamment arrêter de couper les rubans. Je vous fais entendre Christine Fréchette qui avait tenu un discours similaire il y a de cela deux semaines durant les assises de l'Union des municipalités.
Nos hôpitaux, nos écoles, nos routes, ils ont bien besoin d'amour. Nos égouts, nos bandes fontaines, nos installations sportives ont également besoin d'amour, puis on doit leur en donner rapidement. Alors, à l'avenir, on doit couper moins de rubans puis faire de meilleurs investissements.
C'est pas comme si la CAQ, ça fait 8 ans qu'ils sont
non,
au pouvoir.
Non, c'est ça, exactement. Donc, là, on y pense soudainement là. Tout à l'heure, dans le show, un petit peu plus tard, après la chronique de Rémi Villemur, on vous fera jouer, justement, un extrait de Moncef Déragie du Parti libéral du Québec qui, autrement en conférence de presse, a mentionné ceci, l'a beaucoup relié à Éric Girard. Et je vous ferai jouer également l'extrait du président du syndicat des ingénieurs du Québec qui nous a mentionné hier que le 31 milliards qui a fuité, là,
probablement
c'est encore
plus. Je termine à l'international parce que les États-Unis et l'Iran, cette nuit, il y a eu les frappes les plus importantes depuis le début de la trêve, donc depuis le début du mois de mai. Donc, on avait vent comme quoi il y avait un accord. Puis là, on voit ça, des coups de feu, on se dit, ben finalement, il n'y a peut-être pas d'accord. Pourtant, il y a de cela 30 minutes. Le Journal de Québec nous rapporte que les États-Unis et l'Iran ont établi un accord, un cadre d'accord qui prévoit une extension du cessez-le-feu de 60 jours. La seule chose qui attendrait pour que cet accord-là soit mis en place, ce serait la signature de Donald Trump qui se fait toujours attendre.
Oui, qui se fait toujours attendre. Donc, on va suivre ça attentivement dans les prochaines heures, c'est certain. Merci, 418-971-101. On dit qu'on pourrait tout simplement tirer l'île. On aussi l'amène.
Ben oui, c'est
plus
ça.
Plus besoin de pont. C'est super simple. Également, une auditrice qui nous dit, on prend l'attraction du Air Cannon à Sainte-Anne, puis fioum! On pitch le monde direct à l'île d'Orléans aussi. Ça va vite, l'Air Cannon.
Ben oui.
C'est comme la catapulte, là.
Puis tu sais, honnêtement, tirer l'île vers nous autres, avoir la capacité que le provincial a à construire des ponts, ce serait presque plus simple.
Ben honnêtement, oui. Tu sais, comme ça, imagine. Ça doit coûter moins de 3 milliards, tirer l'île. Voyons voir.
Là.
Et on parle hockey avec Alex Laramé, mais avant de parler avec Alex, un auditeur nous écrit « Je comprends pas mon CH, l'une des meilleures équipes de l'année offensivement. Les retours au classement, on a battu 3 fois les 15 dans l'année. C'est-tu vraiment les matchs de plus, les 6 matchs de plus qui font une différence? Pourtant, Dobesch, lui, il joue pendant 60 minutes. Puis, il lâche pas, comme la preuve hier en troisième période avec ses 18 arrêts. Pour parler de tout ça, on va rejoindre immédiatement Alex Laramé, chroniqueur sportif et journaliste au 99.5 Montréal. Alex, il y a des meilleurs jours que d'autres et aujourd'hui, c'est un jour difficile pour les partisans du Canadien.
Ah ouais, tu l'as dit, le match d'hier était absolument horrible. Oh. On va pas se cacher. Tu sors de la première période en retard de 3 buts à domicile. Centre Bell était flat. On n'entendait personne là. Non, honnêtement, on peut pointer du doigt le Canadien dans tout ça, le nombre de tirs. C'est sûr qu'il faut tirer plus que 18 fois puis que 3 fois en troisième période lorsque tu es en retard de 3 buts. Mais honnêtement, je pense vraiment que la fatigue là, va jouer joue contre le Canadien en ce moment. Puis on voit une équipe des Hurricanes qui met beaucoup de pression, qui a des jambes plus fraîches que le Canadien. Puis c'est drôle, je voyais passer ça sur Twitter, mais des équipes qui vont dans les matchs numéro 7, dans les 2 premières rondes, il y en a une seule qui a gagné la Coupe Stanley dans l'histoire, c'est les Kings en 2014. Sinon, tous les clubs qui se rendent au bout dans les 2 premières rondes finissent par soit perdre en finale de conférence ou perdre en finale de la Coupe. Donc, je pense qu'il y a un peu de ça, là, la fatigue rattrape le Canadien.
Et les Kings, en 2014, pour rappel, avaient remporté la Coupe Stanley après avoir tiré de l'arrière 0-3 contre les Sharks de San Jose en première ronde. Fait que t'imagines, ils étaient à un match de se faire éliminer en première ronde et ils sont allés chercher la Coupe Stanley. Donc, c'est tout simplement incroyable comme prestation.
Puis, on parle de la fatigue, puis c'est sûr, c'est un facteur. Là. On a, comme je dis depuis le début de la série, on a de la difficulté à mettre de la vitesse dans notre jeu. Par contre, pour moi, une autre chose qui est ressortie hier, c'est que les gars n'y croient plus.
En effet.
Pour moi, la confiance est affectée. On parlait de la confiance pour Caulfield au début des séries, pour Demidov aussi. Là, la confiance du club au complet est affectée.
Ah oui, hey, on avait un Suzuki a été distant hier, ce qui est jamais. Là.
Les gars n'y croient plus. Il y a de la frustration. On n'a plus de confiance. Puis ça se ressent jusqu'à derrière la télévision. Hein, que les gars sur la patinoire, dans leur tête, ce qui se passe, c'est on n'a aucune chance de gagner. On n'est pas capable de les battre.
Je suis d'accord avec toi. Puis la preuve, c'est le maigre 3 lancés en troisième période. T'sais, normalement, tu perds 3-0, tu joues ta vie, tu dis « OK, je donne tout », puis là, les gars étaient flat aussi. Par contre, Alex, il faut le dire, les Hurricanes de la Caroline font les petits détails à la perfection. T'sais, j'ai remarqué ça hier. Un lobby pour sortir de la zone, il y a un joueur qui passe, elle tombe drette sur sa palette. En zone offensive, on fait rouler la rondelle sur la bande. Elle est jamais trop fort et jamais trop court. Elle est juste à bonne place pour que ce soit l'autre attaquant des Hurricanes qui vienne la chercher. C'est une équipe qui a une précision chirurgicale dans sa façon de jouer.
Ouais, tu viens de le mentionner, le niveau d'exécution là, des Hurricanes est là, celui du Canadien n'est pas là. Il faut dire que c'est une équipe qui est mature, là, celle des Hurricanes.
Ben là, oui,
on a fait quelques ajouts, là, Nikolai Ehlers et Kendrick Miller notamment, là, qui apportent beaucoup à ce club-là. Mais tu as des Jordan Staal, des Sébastien Aho, des Svechnikov, ça fait des années qu'ils sont là, qu'ils jouent ensemble. Les gars se connaissent. Puis je pense qu'il faut prendre un peu de recul, là, puis il faut se dire, je pense que la logique est un peu respectée. Là. Les Hurricanes sont plus matures, le Canadien est plus jeune. Puis c'est ça qu'on voit.
Quand tu te frappes la marboulette trois fois avec le même groupe de joueurs en finale de conférence, à un moment donné, c'est de l'apprentissage puis de l'expérience que tu acquiers qui permet aux Hurricanes d'être aussi performants à l'heure actuelle. Donc, pour le Canadien, faut vraiment pas le voir négativement parce que c'est un jeune groupe de joueurs qui ont des contrats à long terme. Et c'est une expérience qui va être acquérie, je me trompe pas.
Ah, puis comme tu dis, dans le pire des cas, là, on perd le prochain match, puis on met ça dans le sac à bagages pour l'année prochaine,
exactement,
puis les années à venir. Ce qui serait fun pour le Canadien, c'est d'aller en chercher une, là. Une dernière. Là. On n'y croit plus. Puis honnêtement, les fans n'y croient plus non plus. Fait que je pense que ça réduit un peu la pression. Prochain match, juste se pointer sur la patinoire, s'amuser, jouer sans pression, puis essayer d'aller en chercher une pour l'expérience, pour l'avenir. Puis, tu sais, il y a encore de l'espoir un petit peu, entre guillemets, là, même si j'y crois pas vraiment. Mais, tu sais, cette série-là, d'avoir fait deux matchs numéro 7 consécutifs pour une équipe de jeunes comme ça, c'est d'expériences exceptionnelles qui ont acquéri au cours de ces séries-là.
Est-ce qu'Alex, ça nous démontre cette série-là, par contre, que le point numéro un pour Ken Hughes dans l'entre-saison, c'est enfin un deuxième joueur de centre? Parce que, tu sais, j'aime bien Drake Evans, j'aime bien Philippe Dano, puis c'est des bons petits gars, puis ils travaillent fort. Mais, tu sais, quand un Nick Suzuki, justement, commence à être un peu plus effacé, il n'y a pas personne dans cette ligne de centre-là pour prendre la relève. Contrairement à une équipe comme on voit de la Caroline, où Sébastien Néo ne connaît pas ses meilleures séries, mais Logan Stankoven puis Jordan Staal font un job en tabarouette, là.
Ouais, non, exactement. Puis je pense qu'on peut s'attendre à ce que Kent Hughes va aller chercher justement cet attaquant top 6, là, idéalement un centre gaucher, idéalement aussi.
Oui.
Parce que on l'a vu à tous les étés, il est allé faire une grosse transaction, notamment Dobson l'été dernier. Mais oui, là, c'est le besoin criant chez le Canadien. Puis aussi d'avoir peut-être un petit peu plus de profondeur. Là, c'est correct d'amener des Veleno puis ce genre de gars-là sur la quatrième ligne. Mais si tu es capable de plus avoir des gars, justement, en ce moment, qui sont sur la troisième, descendre sur la 4. C'est ça, un club champion. Là. On a fait le top 4 de la Ligue nationale, quand même. Là. Faut le souligner.
Ben oui.
Mais avec quelques ajouts, puis comme tu l'as dit, le fameux centre de deuxième trio. Là, je pense qu'on va vraiment avoir un club pour compétitionner pour la Coupe.
Exactement. Il y a PO qui nous rappelle par texto que Caroline a vraiment mangé son pain noir. Ils avaient une fiche d'une victoire et 17 défaites en finale de conférence avant cette année, justement. Alors, ils sont rendus à maturité. Vous avez bien raison. Le Canadien aura sa chance d'ici les 5 prochaines années, selon moi. Ah oui, le Canadien est un groupe de jeunes très talentueux. Puis bien, on dit toujours, l'expérience, ça ne s'achète pas. Ça s'acquiert, les amis. C'est exactement ce que le Canadien est en train de faire. On se parle quand même demain. On se décourage pas. Peut-être que le CH va rebondir contre toute attente en Caroline vendredi parce que le Canadien nous a habitués à ça cette année quand on les croyait morts, revenir fort. Donc, on reste confiant pour la suite des choses et on se parle demain, Alex Aramé.
Toujours un plaisir, à demain.
Salut Alex, merci beaucoup. Alex Laramé, chroniqueur sportif dans l'émission Nageur, journaliste également au 99.5 Montréal. On va aller rejoindre dans quelques instants un autre du 99.5 Montréal, Rémi Villemur. On revient sur cette semaine difficile de Christine Fréchette. C'est de la faute à qui, cette semaine difficile-là? C'est-tu de la faute à la PM ou à quelqu'un d'autre? Puis Rémi va nous parler aussi d'un projet à Montréal de spectacle dans un cimetière.
Ouais, ça, ça m'intrigue vraiment.
Hey, moi, ça me fait triper.
Ah oui,
j'ai toujours rêvé, moi, d'être dans un cimetière, puis il se passe des affaires le soir, mais j'ai toujours été trop trouillon. Mais là, s'il y a un spectacle, peut-être que j'aurai pas la crainte.
J'ai hâte d'entendre ça, mais je suis pas autant enthousiasmé que toi, Jeff.
OK, on en jase dans quelques instants.
On en jase. À Boulevard 102.
13h15 minutes. Et oui, 100% parlé en semaine, Boulevard 102.1. Et on sait que ça vous plaît parce que vous réagissez beaucoup. Isabelle qui écrit « Talentueux, quelle belle complicité qu'ils ont en parlant du Canadien. Aucune guerre d'égo, ça travaille en équipe, en effet. » Un autre seul qui nous dit « Ouais, leur spécialité, c'est de rebondir. » Fait que le monde sont vraiment contents de la saison du Canadien, contents de la présence en série. Et on y croit encore également. Pourquoi pas, croyons-y jusqu'au bout. Il n'y a pas de doute dans mon esprit.
Puis j'ai envie de dire, soyons, même si ça se passe moins bien, il faut être positif quand même. Là. Les jeunes nous ont fait triper. Là,
ben oui. Lane Hudson.
Ah, c'était incroyable.
51 buts pour Cole. Au-dessus de 100 points pour Nick Suzuki.
On a eu une saison exceptionnelle. Je vous ramène au début de la saison où on disait... Ah, ben si on fait. Ça se peut qu'on fasse pas les séries. Là, finalement, on est en finale de conférence.
Non,
c'est fantastique.
Demidov, une première saison complète, vraiment intéressante. Slafkovský qui a eu des bons moments. Non, vraiment, il y a de quoi de bien. Jacob Dobesch devant le filet. Il y a vraiment de quoi de bien qui se passe chez le Canadien de Montréal. Ça ne fait aucun doute. À la météo, ça va être un petit peu plus difficile. C'est 11 degrés présentement avec 60 % de possibilités d'averse. Demain, c'est 13 degrés avec des possibilités d'averse. Encerclé samedi au calendrier parce que c'est 19 degrés ensoleillé. Moi, je check mon camp en région de Charlevoix puis je m'en vais faire une randonnée pédestre avec ma blonde.
Là, en fin de semaine, ça?
Ouais, samedi, il annonce beau.
Oh, t'es
chanceux. Là, elle m'a envoyé un petit lien en disant « Hey, sais-tu quoi? Tes grands-enfants sont capables de se garder tout seul, hein, gars? J'ai une petite auberge avec un... »
Oh.
Ouais, fait que, on risque de se faire un petit samedi en amoureux. Ça va être
ben, ça fait du bien de temps en temps. Puis ben, pour entretenir un couple, t'as pas le choix d'avoir des activités comme ça de temps en temps.
Pas le choix. Faut prendre soin du couple. Vous en pensez quoi au 418-971-109? Faites quoi? Faites-vous des petites surprises comme ça une fois de temps en temps pour entretenir
des
le couple?
Des petites sorties, des petites activités.
Oh, oui, hein? Toi, Mathias, tu fais ça?
Ben, pas le choix. Puis surtout que là, j'étais à distance. Là, ma blonde est venue me rejoindre.
Oh!
Quand on était à distance, on se voyait, on profitait du fait qu'on se voyait, mais on essayait tout le temps de s'organiser des petites choses aussi pour rendre le moment un peu plus spécial.
C'est clair. On va rejoindre Rémi Villemur directement en direct de Montréal du 99.5. Rémi, comment vas-tu?
Ah, je vais super bien.
Rémi, fais-tu ça avec ta blonde? On suit des petites surprises une fois de temps en temps pour garder le feu dans les yeux.
Ah, moi, j'ai toujours gardé un mystère sur mon statut conjugal.
D'accord.
Ouais. Il y a Rémi Villemur, le chroniqueur, puis il y a Rémi Villemur, l'être humain.
Alors, je laisse le mystère planer. Rémi, on a parlé de Christine Fréchette qui ne connaissait pas justement le chiffre de la dette. On réécoute justement l'extrait avec toi et par la suite, on en parle.
C'est quoi la dette nette au Québec aujourd'hui?
La dette nette aujourd'hui.
Est-ce que vous n'avez pas l'idée du chiffre, Madame la Première ministre?
Bien, je voudrais vous donner le bon chiffre.
Environ. Je vous donne du jeu, là. Il n'y a pas de...
Comment? 36% PIB.
En fait, non, je veux la dette nette en chiffres, en dollars. Est-ce que vous savez c'est quoi?
En dollars, ça équivaut à quoi?
J'en conclue, Madame la Première ministre, que vous ne savez pas c'est quoi le chiffre de la dette au Québec.
Je vous reviens.
Ça me semble assez clair, M. le Président. Mais c'est correct, je vais vous le dire, c'est 259 milliards.
Rémi, c'est la faute à qui? À la première ministre, à son équipe qui n'a pas été capable de répondre pendant ce 44 secondes interminables ou à André Fortin qui n'est pas fin avec la première ministre?
Non, mais on va mettre quelque chose au clair tout de suite. André Fortin fait son travail, là.
Oui.
Et j'ai même entendu des gens dire que c'était peut-être une question piège, là. Non, non, non. C'est pas une question piège. Savoir combien, à combien s'élève la dette de l'État à la, dont vous êtes la chef d'une certaine façon, c'est un peu la moindre des choses. Tout le monde est censé savoir combien on doit à la banque, combien il nous reste à payer sur l'hypothèque. Ben, Christine Fréchette a une responsabilité supplémentaire en plus de savoir où en sont ses finances personnelles, c'est de savoir où en sont les finances de l'État du Québec. Je ne sais pas pourquoi on se pose même la question 2 secondes à savoir si ça pourrait être une question piège. Cette question-là, on devrait la poser souvent à nos élus. On devrait la poser à chaque fois qu'un premier ministre prévoit de mettre, ou une première ministre, de mettre une centaine de millions de plus sur la dette. Là où je veux en venir, par contre, c'est, je ne suis pas sûr que ses prédécesseurs auraient été capables de répondre du tac au tac non plus. Je ne vais pas accabler Mme Fréchette de soupçons qui seraient injustes. D'ailleurs, je précise une chose, ça n'a pas changé. Elle a toujours été reconnue comme étant quelqu'un de studieuse, de quelqu'un qui connaît ses dossiers. Donc, je ne peux pas croire que la studieuse parmi nous, celle qui connaît ses dossiers parmi nous, serait la seule qui ne saurait pas à combien s'élève la dette. Je me rappelle plus si on l'avait posé la question à François Legault.
François Legault s'est trompé sur les prix du logement à Montréal en disant que c'est 500$ pour un 4,5. Et Philippe Couillard, à l'époque, nous avait dit que c'est 70$ pour faire l'épicerie.
OK, mais la dette, honnêtement, là, je pense que c'est pire de ne pas savoir c'est combien la dette du Québec que de ne pas savoir à combien coûte un 5,5 à Montréal.
Je suis d'accord avec toi.
Le 70$ d'épicerie, par contre, ça, c'est sûr qu'on s'en rappelle. Hein? Philippe Couillard est encore pogné avec ça. Mais mon problème, moi, c'est qu'on va, mettre ça sur le dos d'un individu, Christine Fréchette, parce que c'est elle cette fois-ci, puis on va oublier un certain nombre de choses, notamment le fait que l'État est trop gros, la machine bureaucratique est tellement grosse que vous avez des gens qui imposent des taxes et ne savent pas qu'elles ont été imposées. Vous avez des gens qui sont assisté de secrétaire à exécutif de ci, d'adjoint de ci, d'adjoint de l'adjoint de l'adjoint, si bien que des informations élémentaires, on n'est même plus assuré que le premier ministre va les avoir, ou on est plus garanti que quelqu'un va connaître, c'est comme le fond de sa poche, le pédigree normal de quelque chose, parce qu'on se repose sur tellement de gens. Vous avez fait jouer la version audio, la version vidéo est très intéressante. J'invite les auditeurs à aller voir parce qu'assez rapidement, Christine Fréchette se retourne vers quelqu'un d'autre lorsque la question lui est posée. Donc, elle sait, je me demande combien de fois dans sa journée elle fait ça. Et elle, ça pourrait être il si c'était quelqu'un d'autre, mais là, c'est elle. Donc, je me demande combien de fois dans une journée ces gens-là peuvent bénéficier de l'expertise de quelqu'un d'autre à défaut de devoir défendre la leur, tellement la machine est grosse. Je trouve ça dommage. J'ai peur que ce ne soit que le petit bout du iceberg, c'est-à-dire qu'il y a bien d'autres affaires qu'elle n'est pas au courant, qu'elle annonce, mais qu'elle n'est pas au courant.
Bien, en effet, puis on a vu justement une autre partie du iceberg hier lorsque on l'a questionné sur le 1% de plus comme taxe sur les assurances, qu'on a fait la comparaison avec ses annonces, elle s'est retrouvée vraiment dans une position inconfortable parce qu'on ne l'a pas avisé que ou on n'a pas pris la peine de la mettre justement au parfum que ses annonces n'équivalaient pas à ce qu'on avait donné comme augmentation. Donc, ça rendait la chose très difficile pour elle, là.
Oui, où il y a eu son échange avec Paul Saint-Pierre Plamondon sur l'enquête qui a été lancée par le gouvernement du Québec pour déterminer qui a fait fuiter l'échange de courriel entre Éric Girard et elle. Donc, il y a 2-3 jours, on nous annonce que le gouvernement déclenche une enquête et par la suite, elle n'est pas capable de répondre qui est en charge de l'enquête. Puis là, elle dit que c'est un processus d'administration normal. Bon, d'accord, mais vous ne savez pas c'est qui déclenche cette enquête-là? Je suis un petit peu obligé de donner raison à Paul Saint-Pierre Plamondon ici, là. Lui aussi, on lui a dit qu'il a fatigue, il a travaillé au corps, il va un petit peu trop loin. Non, non.
Non.
Si vous n'êtes pas capable d'identifier qui est en charge d'une enquête au bout de laquelle vous voulez savoir qui a échangé vos courriels, bien, c'est parce que la machine est trop grosse, là.
C'est clair. Donc, vraiment, dossier à suivre. C'est pas une bonne semaine pour elle. Et je me dis que ça sera pas facile pour le recrutement à la CAQ, même si on a monté un peu dans les sondages, parce que ça m'apparaît encore, justement, un parti politique très désorganisé. Hey, Rémi, avant de passer à ton deuxième sujet, breaking news dans le domaine sportif, Mathias, et ça concerne un ancien joueur du Canadien qu'on a pourtant vu porté le flambeau.
Qu'on a vu très récemment, là, qui a porté le flambeau lundi au Centre Bell face aux Hurricanes de la Caroline, c'est Claude Lemieux qui est malheureusement décédé à l'âge de 60 ans. Donc, c'est une nouvelle qui vient de sortir malheureusement. La cause de sa mort demeure non divulguée publiquement pour l'instant. C'est l'Association des anciens joueurs de la Ligue nationale qui en a fait l'annonce aujourd'hui.
Nos sympathies à la famille, c'est vraiment une mort abrupte. Hein? On le levait avec le flambeau lundi, animé le Centre Bell, justement, les 22 000 crinqués qui étaient dans le Centre Bell pour tenter de faire virer le vent de côté dans cette série entre le Canadien et le Hurricanes. Très triste nouvelle pour le monde sportif et la grande famille du Canadien de Montréal.
Il devrait présentement comme agent de joueur là, pendant plusieurs années. Il a aussi gagné la Coupe Stanley en 1986 avec le Canadien de Montréal. Donc, une grosse perte pour le monde du hockey aujourd'hui.
Un but mémorable contre les Whalers d'Hartford en première ronde, justement, de cette année-là. Septième match en prolongation. Je veux vraiment pas faire de mauvais lien, mais c'était quand même le deuxième sujet à discuter avec toi, Rémi, c'est-à-dire Moment Factory, qui fait un excellent boulot ici à Québec, dans l'église Saint-Roch, avec son spectacle illuminé. J'y ai assisté, j'y ai trippé. Je le sais qu'ils sont installés également à Montréal depuis plusieurs années. Et là, ils lancent un projet dans un cimetière. Parle-nous de ça, ça m'intrigue.
Bien, à Montréal, dans la Côte-des-Neiges, au bas de la côte, il y a un cimetière qui s'appelle le cimetière Notre-Dame-des-Neiges. Maurice Richard est enterré là-bas.
OK.
Jacques Parizeau, Pierre Falardeau. Il y a vraiment là, il y a 1 million de personnes qui ont été enterrées au cimetière au fil des ans. Et il y a quelques mois déjà, on avait annoncé pas très clairement qu'il y avait un projet en réflexion, un projet qui visait à quoi? À organiser des parcours pédestres dans le parc, avec de la lumière, peut-être de la musique, peut-être la possibilité même de faire la fête dans le cimetière la nuit pour attirer des nouveaux visiteurs. On sait que les nouvelles générations se détachent un peu de cet exercice-là, qui est un exercice, un rite finalement, d'aller au cimetière visiter les morts. Et on voulait donc attirer des gens. On voulait aussi récolter de l'argent pour ensuite en distribuer une partie au cimetière pour que le cimetière puisse s'entretenir, continuer de s'occuper de soi-même, parce qu'au fil des ans, il y a eu plusieurs grèves, il y a eu beaucoup de nonchalance dans les travaux et dans l'entretien des terrains. Moi, au départ, donc il y a quelques mois, j'avais accueilli cette idée-là avec beaucoup, beaucoup, beaucoup d'hésitation, beaucoup de résistance, parce que je me disais, bon, c'est bien beau, là, des lumières, mais si c'est pour avoir de la musique, si c'est pour avoir de l'alcool, si ça pourrait être, une fête là, dans un cimetière, alors que reposent quand même les morts là-bas, puis qu'on a-tu demandé l'avis des 1 million de personnes qui ont vu un de leurs proches être enterré là?
Ouais.
Ben, je dis non. Sauf que là, quelques mois plus tard, on a plus de détails et je suis bien obligé de reconnaître, et ça me fait plaisir de le faire, que ça a l'air d'être foutument bien fait, ce truc-là.
Ben, je lisais ça tantôt, moi, puis je tripais bien raide. Je me disais, hey, ça tombe bien l'air cool comme concept dans un cimetière. En plus, il y a toujours de quoi dans un cimetière d'intéressant, d'attirant vers l'au-delà.
Oui, ben c'est parce que j'ai bien lu les détails du projet. Ça va commencer dans les prochains mois. Ça commence à l'automne. Et on a vraiment, je pense, mis en pratique un important respect du lieu. Donc, on ne va pas permettre aux gens de marcher sur le gazon, par exemple, là où il y a des corps qui ont été enterrés. On va seulement autoriser les gens à marcher dans les sentiers qui sont en asphalte. Donc, il n'y a personne en dessous de ça. On ne va pas utiliser les pierres tombales comme projecteurs, parce qu'on veut faire des jeux de lumière. Moment Factory est reconnu pour ça, mais on ne va pas utiliser les pierres tombales pour ça. On va utiliser d'autres lieux à l'intérieur du cimetière. Je ne pense pas qu'il y aura de la musique. Je ne pense surtout pas qu'il y aura de l'alcool, finalement. Donc, finalement, je me dis, c'est bien. Puis ça m'a convaincu quand on nous a répété qu'on allait utiliser l'argent pour entretenir le parc du cimetière, parce que ça, c'est très, très important. Quand il y avait eu une grève il y a quelques années, parce qu'il n'y avait pas de négociation, pas d'entente collective qui avait été signée entre l'école bleue du cimetière et la ville, c'était dégueulasse. Là. Le gazon était aussi haut que moi. Il y avait des bestioles qui se promenaient là. Il y avait des corps qu'on ne pouvait pas enterrer parce qu'on les gardait au froid. Puis là, il n'y avait pas d'employés. Donc, si on peut aider le cimetière à rouler, moi, je dis oui.
Ah, vraiment, c'est un beau projet. J'ai confiance en Moment Factory. Mathias, ça te fait changer d'idée?
Mais non, mais pour vrai, au début, j'étais, comme tu as dit, Rémi, là, avec de la musique. Ça aurait été bizarre dans un cimetière. Mais là, je regarde des images, puis je vous invite à aller voir ça sur Internet. Là, les images donnent envie, c'est magnifique, puis on semble vraiment vouloir le faire dans le respect de la chose.
Ouais, puis j'imagine que ça va devenir également un bel attrait touristique pour Montréal, puis ça, je suis convaincu que Montréal en a besoin de projets comme ça.
Oui, tout à fait. Mais je pense qu'on a besoin d'être original avec des lieux. Moi, j'ai rien contre le fait de prendre un lieu qui n'est plus investi de sa mission initiale et d'en faire quelque chose d'autre, mais il faut toujours, toujours, toujours respecter la vision initiale. Moi, je n'irai jamais dans un rave dans une église, par exemple. Vous ne me verrez jamais là.
Non, en effet.
Vous me verrez ailleurs, peut-être.
Rémi Villemur, c'est toujours un plaisir. C'était ta dernière chronique de la saison avec nous. J'ai vraiment apprécié énormément collaborer avec toi à chaque mardi et jeudi dans l'émission d'En Jase. Et ce n'est que partie remise à l'automne prochain.
Bye-bye, plaisir partagé.
Salut Rémi, merci beaucoup. Rémi Villemur, animateur au 99.5 Montréal et chroniqueur avec nous les mardis et jeudis. Il y a des problèmes dans la circulation, Mathias?
Oui, juste vous signaler à hauteur de chemin Sainte-Foy sur Henri IV, direction sud. Il y a un ralentissement, le secteur est en travaux. On sait, ça remonte un peu après Charest. C'est au rouge également, vous signaler dans le secteur de Taniata. Puis c'est récent de cette semaine, donc je le fais une fois par show. Au niveau de rue Sainte-Hélène, c'est en travaux, puis c'est difficile à longueur de journée dans ce secteur-là. Donc, si vous n'avez pas à passer là, que ce soit au cours de votre journée où vous pouvez prendre un chemin alternatif, faites-le. S'il y a quoi que ce soit d'autre, c'est au 418-971-1021 par texto.
Merci beaucoup, Mathias. Est-ce que tu nous rappelles justement ce décès imprévu dans le domaine sportif d'un ancien Canadien?
On n'a pas le choix de le faire. Hein. C'est sorti il y a de cela quelques minutes à peine. Malheureusement, Claude Demieux qui nous a quittés à l'âge de 60 ans. C'est l'Association des anciens joueurs de la Ligue nationale qui en a fait l'annonce aujourd'hui. L'ancien joueur du Canadien qui a porté le flambeau littéralement lundi face aux Hurricanes de la Caroline. L'homme de 60 ans qui était encore très actif dans le milieu du hockey, notamment comme agent de joueur pour Timo Meyer, Tim Stutzel, Moritz Seider, Joel Eriksson-Ek ou encore Rasmus Anderson. L'homme qui a eu une grande carrière avec notamment une victoire de la Coupe Stanley en 1986 avec le Canadien de Montréal.
Il y a un auditeur, Fred, qui nous rappelle un cross-check magnifique aussi sur Chris Draper en 1996. Ouais, allez voir ces images-là. C'est là que Patrick Roy se bat justement également avec Mike Vernon, puis que Roy est ensanglanté. C'était toute une rivalité Avalanche Red Wings. Claude André qui mentionne sidéré de la nouvelle, un de mes favoris de toujours. Ouf, il avait l'air heureux au moins lundi, sa console. En effet, il avait l'air en pleine santé.
Oui, lundi. Les causes du décès sont pour l'instant inconnues. Une chose est sûre, c'est qu'au cours des prochaines heures, nos pensées sont avec les proches de Claude Demieux. Puis c'est sûr que pour les fans d'hockey, ça va faire remonter beaucoup de souvenirs de l'enfance avec ce décès malheureux.
Exactement. Ça va prendre une Coupe Stanley à Montréal bientôt. On est en train de perdre les anciens, Mathias.
Oui.
On va prendre ça.
On va espérer.
On s'arrête un moment, on revient avec un gros bloc de nouvelles à Boulevard 101, l'émission d'En Jase.
Lemieux qui reprend derrière le filet. Une passe. La rondelle libre. Oui, reprise par Lemieux. Le tir.
Allez! Oh! Oh,
le trio des jeunes, encore une fois, on avait parlé de ce
que... Le trio des jeunes, il était jeune en 1986, il a marqué ce but en prolongation de la première ronde, septième match contre les Whalers d'Hartford. Et Claude Lemieux avait permis aux Canadiens de l'emporter. Finalement, le Canadien qui a remporté une Coupe Stanley avec Patrick Roy comme gardien de but recrue également. Et ça, c'était lundi soir au Centre Bell.
Alors qu'il portait le flambeau.
Exactement, la foule en délire. 60 ans seulement, il portait le flambeau et malheureusement, il s'est éteint aujourd'hui.
Oui, à la surprise générale, l'Association des anciens joueurs de la Ligue nationale qui nous apprenait aujourd'hui le malheureux décès de Claude Lemieux, ancien joueur des Canadiens, ayant notamment remporté la Coupe Stanley en 1986 avec l'équipe, portait le flambeau lundi pour l'équipe avant le match des Hurricanes. Donc, on s'y attendait vraiment pas. Là, l'homme qui était seulement âgé de 60 ans, pour l'instant, la cause de sa mort demeure joueur non connu au public. Ça, l'homme qui était encore très actif dans le milieu du hockey, notamment comme agent de joueur. Des grands moments dans sa carrière, Jeff en a fait jouer l'un des plus grands pour les fans du Canadien, du moins.
Oui, vraiment, Coupe Stanley avec le Canadien, Coupe Stanley également avec l'Avalanche du Colorado. Donc, un grand joueur qui nous quitte. Les sympathies à la famille du Canadien de Montréal, à la famille de Claude Lemieux.
Je parle du côté de nos amis d'Île d'Orléans parce que ce n'est pas des bonnes nouvelles qui ont été annoncées pour eux ce matin. Le nouveau pont d'Île d'Orléans qui sera retardé finalement, lui qui était censé être mis en service en 2028, ben on va le retarder, on va le mettre en service après 2028. On dit qu'on a pris du retard au niveau des travaux. On n'a pas nécessairement de nouveau échéancier. On sait juste que ça va être plus tard. Par contre, je vous rappelle, le nouveau pont d'Île d'Orléans était construit parce que on avait besoin de construire un nouveau pont d'urgence. Mm-hmm. Le vieux pont était fini. Puis le bureau parlementaire de Québecor, ce matin, ce qu'ils nous ont rapporté, c'est que le vieux pont de l'île d'Orléans pourrait devoir fermer dès la fin de 2027.
Fait que là, si on veut bien l'expliquer à nos auditeurs, il n'y aura pas de nouveau pont avant que l'ancien soit rendu à sa retraite.
Ben, ça... Même théoriquement... on passerait minimum un an sans pont, là, parce que je vous répète, j'ai pas inversé les chiffres.
Non.
L'ancien pont pourrait devoir fermer dès 2027. Le nouveau pont va être ouvert après 2028. Faites un calcul dans votre tête, c'est au moins un an sans pont.
Quand on dit qu'il faut arrêter de retarder les projets, et le pont de l'île d'Orléans, là, on pensait à ça sous le gouvernement libéral de Jean Charest au début des années 2010. Après ça, le gouvernement Couillard, en 2017, avait fait une annonce. Là, ça a été retardé avec la CAQ, finalement annonçant catastrophe en 2024. Là, on est en train de le bâtir à un coût de 3 milliards. Bien, c'est ça que ça fait attendre avant de faire des projets. Puis, sais-tu quoi? Ça me fait penser au fameux troisième lien. On attend que le pont de Québec tombe avant de le faire.
Mais non, c'est beau. On a fait un projet sur une échéance de 125 ans pour le pont de Québec. On a espoir qu'il
ouais,
t'offre longtemps.
Oui, c'est ça. Puis, Anthony nous faisait justement penser tout à l'heure, hors d'onde, pour le pont Champlain à Montréal. On avait retardé.
La super poutre.
Puis là, on l'a fait en catastrophe. Et là, il a fallu faire une super poutre à coût de centaines de millions de dollars, voire à coût de milliards de dollars, pour que le vieux pont Champlain tienne. Donc, on est rendu là à Québec. Arrêtons de retarder les projets quand c'est nécessaire, des projets d'infrastructure. Et un pont, c'est une nécessité. C'est un pont, une école... un hôpital, c'est des nécessités. Ça, faut les travailler.
Je vous ramène en juillet 2025, alors que Sylvain Cabucci, un membre, un des chefs du gang Arab Power, s'est fait tuer, en fait, au pénitencier de Donnacona. Ces 5 individus qui étaient présumés responsables du meurtre, eh bien, ils ont été accusés aujourd'hui. Les 5 délinquants, tous incarcérés pour d'autres crimes graves. Donc, on parle d'Ahmed Raza, Mohamed Barberi, Bilal Brahmi, Mohamed Amin Oumina et Radwan Hamzi, qui sont tous visés par l'accusation le plus grave du code criminel, soit celle de meurtre au premier degré. Tous des hommes âgés de 22 à 29 ans. On va suivre ce dossier-là de près au cours des prochaines semaines.
François nous rappelle par texto 418-971-1021, le fameux viaduc de la Concorde aussi, également, qui est tombé. Donc, on a attendu ça avant de réparer nos viaducs.
Un député du Bloc québécois, Simon-Pierre Savard-Tremblay, se dirige du côté du provincial. Il va quitter le caucus du Bloc québécois pour qui il est présentement représentant pour aller du côté du Parti québécois. L'annonce de sa candidature devrait se faire demain matin dans Saint-Hyacinthe. Et on nous dit que les chefs des deux formations politiques, Yves-François Blanchet et Paul Saint-Pierre-Plamondon, devraient être présents pour l'annonce. L'objectif, c'est de montrer l'union entre les deux, l'unité entre les deux partis souverainistes, qu'il n'y a pas de chicane, même si, on va se dire honnêtement, du côté de François Blanchet, on ne doit pas être bien content de voir un de nos députés quitter.
Ça doit être vraiment un coup dur. D'un autre côté, je le comprends, le député, si tu veux travailler pour le référendum, t'es mieux d'être dans le PQ, dans le Bloc québécois.
Oh oui, 100%. Puis surtout que le Parti québécois a de bonnes chances de l'emporter aux prochaines élections. On nous rapportait dans le Journal de Québec ce matin qu'un campement perdure du côté du parc Jean-Paul Dallier. On a beau démanteler le campement répétition à répétition, même parfois avec une intervention policière, le campement de fortune qui revient toujours, et c'est directement sur la place publique, très visible, les itinérants qui restent honnêtement tout au long de l'année depuis que l'été est installé parmi nous. Et ça, malgré le fait que la Ville de Québec a une tolérance zéro pour les campements, et même M. Marchand le disait il y a de cela quelques semaines.
Bien, on les démolit. On les démonte, les campements. À Québec, il n'y aura pas de campement. Non, ça ne sera pas toléré, ça ne l'était pas. Évidemment, dépendamment où ils sont, parfois, il peut y avoir quelques jours de délai avant qu'on soit informé. Il n'y aura pas de campement à Québec.
Le parc Jean-Paul Lallier, c'est une catastrophe pour l'administration Marchand à l'heure actuelle. Souvenez-vous, l'été dernier, on avait couvert la fameuse fontaine qui ne fonctionnait plus. Le fait que le parc était complètement désuet, il y avait de la boue à des places séchées, énormément d'arbustes qu'on voyait qui n'étaient pas entretenus. Là, c'est l'itinérance qui a pris le plancher. Et puis, on parle même dans l'article du Journal de Québec que le monument pour honorer la mémoire de Jean-Paul Lallier a été scrappé. Et là, du côté de l'administration Marchand, on se dit ça ira pas avant 2032 parce que les travaux du tramway, c'est inacceptable. On peut pas faire ça à l'ancien maire Jean-Paul Lallier qui a revitalisé Saint-Roch, qui a remis Saint-Roch sur la map, qui a remis de l'action au centre-ville. Faut absolument en prendre soin avant 2032. L'opposition ne fait vraiment pas son travail. Là.
Ah, on aurait dû sortir aujourd'hui. Ben oui,
puis Stéphane Lachance devrait être dans tous les médias, d'avoir sorti, d'avoir fait une conférence de presse au parc Jean-Paul Lallier pour dire « J'exige que la ville nous amène un plan d'action. » Parce qu'en plus, Bruno Marchand, en campagne électorale, a promis 100 millions pour revitaliser les parcs dans Saint-Roch. Donc, on commence par le parc Jean-Paul Lallier. Au niveau du gouvernement provincial, faut se mettre à utiliser la clause qui nous permet, avec la loi P38, l'agrandissement qu'on a fait dans la loi, de prendre ces gens-là, malheureusement, qui sont en toxicomanie, qui sont en problème de santé mentale, qui ne veulent pas aller dans les refuges pour personnes itinérantes parce qu'ils ne veulent pas d'aide. Faut les rentrer à l'urgence psychiatrique. Faut les rentrer en thérapie. Je le sais, ça ne donne pas toujours des résultats probants quand tu vas en thérapie et que tu ne veux pas faire la thérapie. Mais si au moins on peut en sauver quoi? 20, 25, 30 %, bien, ça sera toujours bien mieux que zéro comme on a à l'heure actuelle.
Puis là, ça témoigne de l'état difficile du centre-ville de plus en plus.
Oui.
On sait que l'itinérance est en augmentation, mais là, on prend le campement, on démantèle à répétition et à répétition, puis malgré ça, le campement revient.
Exactement.
Tu sais, je veux dire, à un moment donné, ces personnes-là, c'est triste à dire, mais ils cherchent des endroits où être pour toujours revenir à la même place, même en sachant que tu vas te faire tasser. Il faut que tu sois avec des espèces.
Ben oui, mais exactement. Puis là, ils vont là parce qu'il y a justement un toit qui les protège des intempéries. T'sais, je vais prendre l'exemple de la soirée d'hier où il a plu énormément. Mais c'est pour ça, rentrons-là quelque part pour des thérapies de 30, de 60, de 80 jours. Ils vont avoir un toit. Ça ne sera pas toujours facile pour les intervenants qui vont être là. Puis je ne ferai pas leur job, les intervenants qui vont tenter de soigner ces personnes-là, soit dit en passant, puis je leur lève mon chapeau. Mais là, il faut trouver des moyens autres que juste... On démantèle le campement, ils se refait, on leur démantèle, ils se refait. Ces gens-là veulent pas aller dans les refuges, fait qu'on les laisse à la rue. T'sais. On peut plus faire ça en tant que société, il faut prendre soin de ces gens-là.
Déplorant des attaques personnelles du port vis-à-vis la PDG du port de Québec, Olga Farman, Bruno Marchand, qui a annulé une rencontre qui aurait dû se tenir normalement hier après-midi avec la mairesse suppléante de Québec, plusieurs groupes citoyens et Mme Farman. C'est ce qui nous a été révélé hier dans le Journal de Québec. J'ai justement l'extrait du maire Marchand qui parle de ces fameuses attaques personnelles-là envers la PDG du port de Québec.
Les intérêts, que les intérêts du port soient nommés ou pas, je n'ai pas de danger à ce que ce soit nommé, ça fait partie des débats, c'est parfait. Ce que j'ai de la misère avec la démarche citoyenne, c'est d'en faire une affaire personnelle. C'est ça qui marche pas. Oui. On peut pas avoir des débats sains si on est toujours en train de se dire il y a quelqu'un qui a peut-être un problème, un intérêt. Là, moi c'est là que je décroche. Et c'est là, et c'est pour ça que j'annule la rencontre.
Le maire Marchand qui venait dénoncer les propos de la table citoyenne Littoral S, qui avait demandé à l'Agence d'évaluation d'impact du Canada d'effectuer une analyse du projet QSL. Puis je vous rappelle ce que cette table citoyenne-là avait dit. Elle avait noté le fait que Mme Farman siège au conseil d'administration de CDPQ Infra, qui est aussi actionnaire de QSL. Donc eux, ce qu'ils disaient, c'est qu'il y a un conflit d'intérêts. Évidemment, Marchand, il voit là une attaque personnelle. Moi, j'y vois là une critique tout à fait légitime. Là.
Ben vraiment. Puis honnêtement, ça fait petite chicanette là, du côté du maire Marchand. Surtout qu'Olga Forman acceptait de rencontrer, c'est la table du littoral de l'Est, ouais. Ça, je me souviens bien. Donc, acceptait de les rencontrer. Donc, si la PDG, qui est visée par... Puis c'est même pas des allégations, là, c'est des faits, là, qui est visée par ces faits-là, accepte de les rencontrer de bonne foi. Maire Marchand ne peut pas brandir son drapeau de « Ah, ça n'a pas de bon sens ce qu'on fait à Mme Farman. C'est incompréhensible. C'est des attaques personnelles. » Ben non, va à la rencontre, travaille avec les gens. T'sais, au lieu de toujours être dans s'opposer à un point de vue différent, le maire Marchand apprendra à s'asseoir avec ces gens-là, à les écouter, puis à trouver les fameuses voies de passage pour reprendre justement ces termes.
Puis qu'on soit pour ou contre ce projet-là, lorsqu'on dit Olga Farman fait partie du conseil d'administration de CDPQ Infra, puis sont actionnaires de QSL, je veux dire, il y a clairement un conflit d'intérêts. Puis de dire, ah, le port, c'est correct qu'on note les conflits du port, mais dans les de rendre ça personnel, c'est parce que forcément, les conflits d'intérêts du port ont un lien direct avec celle qui est à la tête du port. Oui. C'est automatique.
C'est pas personnel. Personnel, par exemple, ça serait, ah, c'est bien, Olga Farman a toujours été pour des grosses entreprises. Fait que là, on va faire ça tout croche. Ça, c'est une attaque personnelle.
Ça serait inacceptable.
Mais là, comme des auditeurs nous écrivent, c'est un fait réel. Donc, c'est un fait réel. Et il faut travailler juste avec ces gens-là. Puis moi, je suis pour QSL. Vous le savez, depuis 2 ans sur les ondes de Boulevard 101, ça nous prend ce projet-là au niveau économique à Québec. Mais je suis pour que les choses se fassent correctement aussi. Puis à l'heure actuelle, tu peux pas faire gérer l'enquête, le rapport environnemental par la personne qui est deux mains dans le sac à bonbons. Là.
Non, c'est un peu ridicule. Je termine à l'international. Les États-Unis et l'Iran qui ont établi un cadre d'accord qui prévoit l'extension d'un cessez-le-feu de 60 jours. Par contre, ce qu'on attend pour que ce cadre d'accord-là serait conclu, ce serait la signature de Donald Trump qui a toujours pas donné son go. Selon les informations du Journal de Québec, le cadre d'accord soumis au président américain qui prévoit l'accès au détroit d'Ormuz que l'accès au détroit d'Ormuz soit illimité pendant la période de 60 jours. Donc, que l'Iran retire toutes les mines dans la zone, sa présence, son blocus. Et par le fait même que les États-Unis retirent leur propre blocus. On va avoir plus de détails au cours des prochaines heures, là, mais on entendait des bruits comme quoi un accord serait sur le bord de se conclure. Là, de ce qu'on comprend, la seule place où que ça bloque, c'est Donald Trump qui n'a pas encore donné son go pour cet accord-là.
Alors, on va suivre ceci dans les prochaines heures et on va vous tenir au courant sur les ondes de Boulevard 102.1. Très courte pause à Boulevard 102.1. Et par la suite, on revient avec vous. On fait tout simplement regarder. Petite chicane au Parti libéral du Québec ou Charles Milliard n'a pas autant de pognes ou de leadership qu'on pense?
Ah, je pense que ça résume bien la chose.
OK, on regarde ça. C'est Jeff Fortin et Mathias Turcotte qui sont présents. L'émission tire à sa fin. C'est le retour de Denis avec Denis Audéry et Véro. Immédiatement après nous, de 14h à 18h. Et Marceau ce soir à compter de 18h. Mathias, dis-nous donc ça. Mon chef dérangé, es-tu en train de parler contre son chef?
Ouais, ben ce matin, j'écoutais le point de presse du Parti libéral, André Fortin, avec Monsef Deragy. Puis Monsef Deragy, qui est porte-parole transport pour le Parti libéral, s'est fait questionner à 3 fois. Là. Ça a pris 3 fois avant qu'il réponde à la question par rapport à la position du Parti libéral reliée au troisième lien. Charles Milliard dit que ça en prend un. Je vous laisse entendre Monsef Deragy qui semblait avoir une position beaucoup plus modérée aujourd'hui.
Et je vais vous dire ce que notre chef nous a dit. On ne peut pas enlever la réflexion sur un troisième lien. Mais est-ce que c'est maintenant, au moment où on se parle, la réponse est non. Mais on doit garder dans la réflexion un lien intérieur.
Hey, Charles Milliard n'a jamais dit ça. Il a dit on va le faire. Il n'a pas dit on réfléchit à le faire.
Ben, on réfléchit, puis est-ce que c'est maintenant qu'on va le faire? Non. C'est pas ça la position de Charles Milliard.
Mais là, c'est sa position de Monsef Deragy, ça, parce que me semble qu'il s'est exprimé là-dessus déjà.
Ben l'an dernier, je vous ramène l'an dernier, alors qu'on avait une course à la chefferie entre Pablo puis Charles Milliard, Monsef s'est exprimé sur est-ce qu'il faut un troisième lien ou pas. Je pense que son positionnement était assez clair, là.
J'aimerais bien que le prochain chef explique aux Québécois comment on va laisser des chauves-souris à HMR, à l'hôpital Maisonneuve, Rosemont. comment on va laisser le réseau de la santé dans un état lamentable et qu'il explique son choix par rapport au prochain troisième lien.
Ça va pas bien pour les chefs, hein? Christine Fréchette s'est fait faire une jambette par Éric Gérard, puis là, Charles Milliard, il se fait acculer au pied du mur par Monsef Déragie.
Non, pour de vrai, Charles Milliard, Monsef Déragie, il voulait pas répondre à la question. Pourtant, ouais. La position de son chef semble claire. De voir un député qui prend position contre son chef de même, Charles Milliard, qui avait reculé par moments sur la loi 96 à clause dérogatoire.
À cause du caucus.
Y a-tu vraiment une poigne si forte que ça sur son caucus que ce que lui prétend?
Ben, exactement. Puis, tu sais, si vous continuez comme ça, les députés libéraux de Montréal, ben, vous allez juste faire en sorte qu'il n'y aura pas de députés dans la capitale nationale malgré les bonnes candidatures qu'il y a jusqu'à présent.
Ben, c'est ça. Honnêtement, plus personne croit en la CAQ pour faire le troisième lien. Là, on se rabattait du côté des libéraux. Monsef Déragie qui prend la parole, qui dit « Ah non, c'est pas tout de suite le troisième lien. » Honnêtement, reste pas beaucoup d'options crédibles qu'on dit « Oui, oui, je vous crois pour vraiment réaliser un troisième lien dans la capitale nationale. » Puis ça ramène à ce qu'on dit depuis hier. Ce projet-là va jamais se réaliser.
Non, exactement. C'est vraiment un projet qui ne se réalisera pas parce que il y a personne qui veut le réaliser. Et je vous rappelle qu'on l'a baptisé justement le troisième rien avec les
auditeurs. Ça représente bien le projet.
Au 418-971-1021. Mathias, toujours un plaisir. On se parle demain?
Yes, sir. À demain.
Le retour de Gravel suit à l'instant même. Bon après-midi sur les ondes de Boulevard 102.1. Merci d'être là, guys.
Bonne journée.